ってどうですか。Je pense que c'est que tu étais destiné à être autant comme ça pendant 10 ans. Et c'était particulier. T'as un petit corps mystique comme ça. T'as la signification spensale du verbe, de l'épouse. Épousait, parce que quand on est dans le temple de Jérusalem, c'était extraordinaire. N'empêche, quand on y pense, c'est 10 ans de la fièvre. C'est stylé, ça, ce qui s'est passé là. Toute cette, la petite enfance, la petite jeune enfant. C'était vraiment merveilleux. Elle s'occupait spécialement des linges, elle s'occupait spécialement de la prière, elle s'occupait spécialement de rendre purs les linges qui avaient servi sur l'autel des parfums, sur l'autel des sacrifices des petits agneaux d'Anna. Elle nettoyait aussi les petits agneaux en sacrifice. Et puis il y avait la prière, et puis il y avait tout un enseignement. Alors la Torah était enseignée. Et aussi certaines traditions qui n'étaient pas enseignées ailleurs que là. Alors elles étaient ensemble. C'est évident, hein, que si. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on allait à l'école, c'était les garçons d'un côté, puis les filles de l'autre. C'était comme ça. Partout, en toute la France, hein, quand j'étais petit, c'était comme ça aussi. Donc, que des classes de garçons, puis des classes de filles de l'autre côté, là-bas. Alors, même pour la République, c'était comme ça. C'est la République qui faisait ça. Alors, dans la cour de création, pareil. Petit garçon là, petite fille là-bas. Et c'était pareil dans les lycées, les collèges. Alors, on a perdu l'habitude de ça parce que en quelques années, ça c'est l'inverse. On ne trouve pas. Et l'autre jour, je me retrouvais à Lourdes, c'était il y a 2 ans. Et puis je vais à Lourdes. Et puis, il y avait 250 petites filles qui étaient en uniforme, qui étaient dans une école catholique, tout ça. Il n'y avait que des filles, pas de garçons. Ça m'a impressionné, c'était impressionnant. C'était impressionnant avec toutes les religieuses qui s'occupaient d'elles, tout ça. Une complicité incroyable entre les petites bonnes sœurs et puis les petites filles, tous ces ados, tout ça. Il n'y avait aucun problème. Enfin, ça se voyait à l'œil nu qu'il n'y avait pas de problème. Tout ça, c'était. On avait l'impression d'avoir une espèce de... C'était limpide, c'était affolant de voir ça. Moi, j'avais perdu l'habitude de ça. Parce qu'en 20 ans, 30 ans, 40 ans, on voit plus jamais ça. C'était des petites filles normales. Des jeunes filles normales, des petites filles normales. C'était normal. C'était normal. C'était spontané, magnifique, pur, limpide, pas compliqué. Voilà, un accord parfait avec la vie contemplative des bonnes sœurs. C'était vraiment, il y avait quelque chose d'impressionnant. Je les ai regardées longtemps, parce que d'un coin comme ça, parce que sinon ça aurait pas été bien. Je les ai regardées longtemps, pendant bien 24 heures, j'étais là. Quelque chose de spécial, hein. Quelque chose de particulier, dès qu'il y a un corps mystique, vivant, des femmes, des petits. On va se communiquer avec toutes les autres femmes, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit l'ange Gabriel. Voilà. Gabriel, ta parlé à Marie. Elle va se communiquer en ce cas de Marie, c'est évident. Tu es béni dans toutes les femmes, benedicta tu in mulieribus. Et pour toutes les femmes, une bénédiction, tous les enfants. Il y a une présence, et cette présence est celle de la deuxième personne de la très sainte Trinité, une présence spéciale, virginale, limpide, immense, absolue, sans limite, inconditionnelle, limpide, transparente, donnée. Elle n'est pas compliquée parce qu'elle est simple, et c'est ce qui fait très profonde en plus. Et elle est sponsale, évidemment. Elle est sponsale, par instinct. Par instinct, elle est sponsale. Elle est sponsale par rayonnement, vous voyez. C'est un rayonnement. Pourquoi ? Parce que normalement, le Verbe de Dieu ne se regarde pas. La deuxième personne de la très sainte Trinité, hein. Rayonne partout, transperce, se donne, sans se regarder, ce mouvement de profondeur inouïe, dans le don, dans la transparence, la limpidité, l'abandon, tout ça, la virginité, quoi. Le fait que le Verbe de Dieu ne se regarde pas. Alors, quand Dieu voit ce qu'il est, en celui la vie virginale, divine et incrée qui resplendit en se donnant à lui, forcément il rassemble en lui toutes les forces de la lumière et les transforme en amour. Et c'est comme ça que se crée l'hypostase, et de l'hypostase l'émanation. Alors la bénédiction est spéciale, c'est pour ça qu'il y a une pureté, quoi, une pureté presque automatique qui se communique. Il y a un monde féminin. Pourquoi ? Parce que la sagesse créatrice a voulu que le monde féminin, dès qu'il fait corps mystique, forcément le centre de gravité va être... Pourtant, on va dire, mais tiens, si tu mets que des femmes dans une prison, oui, pourquoi ? Parce que si c'est plus des femmes, vous comprenez ? Mais si vous prenez, c'est plus des femmes, elles se sont inversées, quoi. Mais sinon, normalement, oui, les lois de la nature, même s'il n'y a pas la foi, c'est pas grave. Il y a un phénomène curieux qui se fait. C'est la sagesse créatrice de Dieu. La sagesse créatrice de Dieu est avant la création du monde. Vous voyez ça ? Que il y a le Dieu est amour, Dieu est une communion d'amour, Dieu une lumière d'amour, un amour lumineux, un amour absolument embrassé dans la lumière absolue de Dieu, qui fait que, à la croisée de la procession de l'amour et de l'émanation de la lumière, à la croisée des deux, Dieu est là, et il est un. Une seule intériorité, une seule lumière, un seul amour. Bon, tout ça, on le sait bien. Mais alors, quand il y a cette. il y a quand même quelque chose de particulier quand même à l'intérieur de Dieu. Quand vous lisez le traité des dogmes de la révélation sur la très sainte Trinité, vous apprenez, vous voyez que qu'il y a comme un arrêt à l'intérieur de Dieu, qui est un arrêt continuel, qui est un arrêt permanent, et qui est un arrêt qui se situe dans l'unité, dans l'un. Il y a quelque chose dans l'arrêt. Et cet l'un ne cesse de s'associer à l'un, et encore à l'un. Donc, c'est pour ça que la relation à l'autre n'existe pas, elle est que dans l'un. L'un, c'est la relation à l'autre, dans Dieu. Ah. Ça c'est trop compliqué pour moi. Mais n'empêche que c'est beau de voir ça. C'est très beau de savoir là ce que dit le Concile de Chalcédoine sur la relation subsistante de l'un au Dieu. C'est pas seulement beau, c'est vrai. C'est vraiment lui. Quand on dit ça, c'est lui qui est là. Et c'est vrai que quand quand Dieu se donne dans la lumière et la profondeur, et que Dieu se voit cela, quand Dieu se donne en, dans sa profondeur de lumière, et que l'autre, enfin l'un, qui est le voit dans la profondeur de son unité, ben forcément, parce qu'il y a un arrêt, c'est normal. Et cet arrêt fait qu'il y a la naissance dans l'un de cette double commotion commune d'un amour naissant, d'un amour entre eux, d'un amour commun et d'un amour dans l'au-delà de l'un. Et cet amour s'appelle spiration. C'est une spiration active qui embrasse les deux personnes parce qu'elles disparaissent l'une dans l'autre et dans l'au-delà de l'unité des deux. Alors cette spiration active, comme explique saint Thomas d'Aquin, fait précisément ce passage de la lumière à l'amour, de l'amour à la lumière, dans l'unité de Dieu unique. Donc il y a l'unité de chaque personne, l'unité de la lumière, l'unité d'aspiration, puis l'unité de spiration. Et cette inspiration s'arrête parce que elle est comme identifiée à l'unique nature de Dieu. Et elle s'expose elle-même à émaner. Elle procède d'une disparition des deux premiers dans l'un, et du coup il y a comme une émanation d'un amour qui est une pure passivité, une pure jouissance, une pure inspiration, une passivité substantielle d'amour, c'est dans la raison là. Donc il y a bien deux processions, mais il y a un arrêt à la croisée des deux processions. C'est ça la signification la plus profonde du signe de croix. Vous avez la procession du Père, du Fils, de la lumière, la responsabilité, si vous voulez. Elle est profonde, et puis quand elle remonte, voilà, il y a ici à la croisée, il y a l'amour qui va vers la droite, puis qui revient, tout qui revient dedans, tout qui revient là. Il y a l'appel à l'un tout le temps. Un est le Père, un est le Fils, un est l'Esprit Saint. Et la croisée des deux processions a créé de la lumière et de l'amour. Alors tout ça, c'est quand on est pris par le, par la quand on est saisi par le Dieu, quand on est, bon, parce qu'on prie, nous sommes des gens pieux, quand très généreux, prenez par exemple, je sais pas moi, Jeannette par exemple, très généreux. Là, on prie beaucoup, on fait tout ce qu'on peut, on est très attentif, très tout ça. Et du coup, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Il faut être fervent, c'est évident, il faut être fervent, il faut être brûlant, c'est sûr. Mais aussi, en même temps, il faut être un. Vous comprenez ça? C'est la ferveur de l'un. C'est pour ça qu'on fait cette petite session-là. Pour qu'il n'y ait pas que la ferveur, il n'y ait pas que l'effervescence du désir. Parce que l'effervescence du désir s'éloigne de l'un. Il y a le Verbe de Dieu, c'est vrai, mais il y a le Père, il y a l'unité. Et puis, il y a cette espèce de prise, de la disparition et de l'émanation. Et enfin, il y a l'unité totale, absolue et ancrée de l'un de Dieu. Dieu est un. Adonai Erad. Dieu est un. On parle beaucoup des musulmans en ce moment. Dieu est un. Ça, il faut leur répéter ça. Jusqu'à ce que ça leur casse les oreilles. Dieu est un. Parce que ça, ils disent, oh, bon, ah, vous dites ça, bon, oui, ben oui. Parce que les musulmans, moi, ceux que j'ai connus, ils sont très mystiques. Très mystiques. Quand ils rentrent en Dieu, Dieu rentre en eux. Ils sont saisis par Dieu. Ils sont saisis par l'unité de Dieu. Dieu est un. Mais c'est l'intérieur de l'un, de l'unité de Dieu, qui fait que, ah, ils s'en prient, quelquefois Dieu les prend, alors il voit cette espèce de pentée, cet intérieur qui les dépasse, cette miséricorde, enfin les 99 noms de Dieu, qu'ils égrènent sur leur chapelet. Ils sont saisis par l'unité, ils savent bien que Dieu est un. Mais on n'est pas assez surnaturel, on n'est pas assez mystique, et donc, nous, quand on est saisi par le Jésus, par le poids de Jésus, et que on ne comprend pas à quel point Jésus est libre, à quel point il aime de danser, de rire, mais il aime là, une espèce de spontanéité incroyable. Comme dans la vie, dans l'absolu, dans la mort et dans l'éternité, il y a quelque chose qui est extraordinairement. Il y a une créativité incréée de la vie intérieure de Dieu. Passe tout, donc c'est pour ça que quand c'est pour ça que c'est il y a quelque chose de virginal en Dieu, ça c'est évident de ce point de vue là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas virginal? Parce que pas virginal parce que du coup on s'est mis des limites, on s'est restreint quelque part. La virginité libère des espaces sans limites, c'est évident ça. C'est pour ça que les femmes, quand elles deviennent moins femmes, elles sont plus étriquées. C'est sûr. Il faut surtout pas regarder les défauts. De l'immature, sponsale. Celui qui, dans les profondeurs immaculées de sa vie, ne se regarde plus parce qu'il est tellement donné dans la spontanéité du don que, alors il est pleinement Et pour se lever un peu comme ça. Alors cette odeur de lin est très importante, évidemment. Elle est importante parce qu'elle vient tempérer, elle ne veut pas elle vient tempérer, mais elle vient, elle nous oblige à aller de l'amour, de la ferveur, du désir, de l'effervescence, de la foi, à quelque chose qui, dans la pauvreté, et de la pauvreté surnaturelle, nous oblige à aller dans l'au-delà de cette lumière et de cet amour de Dieu. L'au-delà de cette conjonction avec l'unité, l'un intérieur à Dieu. C'est peut-être que l'adoration n'est pas assez forte en nous. Quelquefois, c'est une adoration parce qu'on ne rentre peut-être pas assez dans l'adoration, dans ce qui est tout à fait unique, dans la vie intérieure de Dieu. Et on n'y disparaît pas pour découvrir cette vie inouïe, intérieure, spontanée, créative, conçue, amoureuse, splendide. Jaillissante dans quelque chose de nouveau, éternellement, et à chaque instant, de la manière la plus surprenante, et en même temps, dans le repos de l'un. Et quand on ne dépend plus que de ça en s'y écoulant, et en s'en laissant prendre, vous voyez, parce que c'est prendre par ça. Alors c'est Dieu qui nous prend. Et quand Dieu nous prend, faut d'abord évidemment un immense abandon, se laisser cueillir, cueillir en Dieu, saisir, et puis à un moment donné, c'est une autre vie que l'au-delà de l'union avec Dieu, dans l'au-delà de l'un. Et une fois qu'on est recueilli, à un moment donné, il faut se laisser saisir, et Dieu nous prend. Si Dieu ne nous prend pas, ben nous restons des habitants de la terre, comme dit l'Apocalypse. Mais quand Dieu nous prend, on n'est plus des habitants de la terre. Et on est spirituel. Tandis que tant que tu es dans la générosité, l'effervescence du désir, ce qui est très bien, tu es encore un habitant de la terre. À un moment donné, tu t'arrêtes de respirer, Dieu t'a pris. Ça ne dépend pas de toi, mais c'est évident. Je reconnais que ça ne dépend pas de toi. C'est ça, c'est très ennuyeux. Qui cherche à contrôler la situation, toujours, l'atavisme, luthérien en nous, ça c'est normal. Oh, mais c'est Dieu qui te prend, c'est là, Dieu te prend. De Dieu, il est pris. Qu'est-ce qui lui arrive au verbe de Dieu quand il est pris dans l'un? Il ne sait pas. Oui. Parce que, à bien regarder, quand Dieu voit Dieu, il voit bien. Quand l'épouse se donne dans la lumière, elle est prise. Dans le verbe de Dieu, c'est seulement l'ultime qui saisit sa, si je puis dire, son, sa conscience. On ne peut pas dire que Dieu a une conscience dans la personne, mais ce que vit l'épouse et l'épousé, ce que vit le Verbe. Presque en français, il faudrait dire la parole, parce que c'est féminin plutôt que le Verbe, mais la parole, c'est plus bas que Verbe, alors c'est pour ça que c'est drôlement embêtant. Bon, ça fait rien, la divinité du Verbe. Elle vit quelque chose quand même, dans la vie contemplation, dans la contemplation agréée de Dieu, puisqu'elle est le même esprit, exactement le même esprit, la même contemplation, la même puissance contemplative que le Père, que l'Esprit Saint. Elle voit bien quelque chose. Elle voit tout. Mais elle voit tout à travers l'ultime de son don dans la lumière. Et les profondeurs à partir desquelles se donne dans la lumière, elle les voit aussi, bien sûr. Mais elle ne cesse que d'être entièrement traversée pour aller des profondeurs de sa propre divinité dans le temps qu'hypostase. Et pour y disparaître, mais dans le don, dans l'au-delà d'elle-même. Alors il y a un ultime toujours. Il y a le principe, et puis il y a l'ultime. Et le principe, c'est une personne, et c'est pas elle, alors du coup, il y a son ultime. Et son ultime, c'est le don à son principe. Et puis ça, le parcours entre les deux, c'est mystérieux. On sait que ce parcours fait la substance de sa vie, c'est de la personne du Verbe de Dieu, mais pour se laisser prendre par ça, il faut bien qu'il y ait une intervention directe de Dieu seul. Sinon, vous ne pouvez pas. Et c'est bien ça la vie chrétienne, d'être saisie par le Christ dans ça, dans sa vie intime de personne. Bon, dans Jésus, il y a ce qu'il perçoit. Si je veux être saisi par Jésus, bon, et Jésus, il voit tellement de choses. Il voit comme nous. Là, par exemple, quelqu'un le regarde, et puis il dit, tu sais, Seigneur, je suis un peu déçu, tu m'as pas... Tu me fais un petit peu patienter. J'ai dit, c'est bien fait. C'est très bien fait. Mais quelquefois, il dit, attends, tu vois ce que tu as fait là. Et tu as préparé des pommes de terre, tout ça, avec un petit peu de beurre et tout. Alors, attends, je goûte, mais c'est pas si bon que ça, mais j'aime bien quand même. Tu te rappelles? Jésus est tout le temps là, à côté de nous, mais on ne le voit pas. Elle dit, c'est dommage que je ne te vois pas. Bon, bref, il y a un côté humain, Jésus, un côté très chouette, très drôle, très... Jésus joue avec les enfants des hommes. Il joue avec nous tout le temps. Il joue. Il rit. C'est vrai qu'il y a un côté extraordinaire de Jésus. Jésus est affamé de connaissances. Il aime nous voir, nous connaître, un petit truc, et puis s'associer immédiatement, continuellement à nous. Et c'est sûr, il y a une science, une espèce de science, cette communion. Il a une science infuse aussi. Ah, il y a une science infuse, Jésus, que ce soit dans sa vie sur la terre ou maintenant, dans la résurrection, Jésus a aussi une science infuse. Et c'est tout. Et c'est tout. Et moi, par exemple, si je fais un effort pour passer dans la nuit de la foi, pour donner le monde entier à travers une petite souffrance que j'ai, il voit tout, 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 le lieu futur parce que quelqu'un, un petit enfant a fait ça pour lui, par amour pour lui, il voit tout ce que ça a comme conséquence, tout ce que ça a comme implication, comme rayonnement, dans l'histoire, dans le temps, d'où ça vient, toutes ces origines, ces racines, tout ça, mais aussi toutes ces fécondités, tout ce que ça va faire dans la résurrection, tout ce que ça va faire dans le Père. Dans l'infinité avec l'Esprit Saint, tout ça, et voilà, la science s'infuse. Bon, il a aussi une science d'union, une connaissance qui vient de son union hypostatique. Oh là 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 là, ça c'est beau aussi ça. Alors, il a une science d'union, ça veut dire que Jésus, que ce soit même quand il est dans le ventre de la Vierge, là, 2 jours après son incarnation, même 4 secondes après son incarnation, même à l'instant de son incarnation, à sa naissance, enfin tout le temps de toute façon, il a la science d'union. C'est-à-dire qu'il a la vision béatifique, c'est-à-dire qu'il voit autant la gloire éternelle que avec cette humaine glorieuse, investit son intellect agent, sa vie contemplative, sa vie spirituelle humaine, de manière telle qu'il voit Dieu. Exactement autant que actuellement l'intelligence toute imbibée, envahie par le lumen de glorieuse, vient de quoi envahir l'intelligence humaine de Saint François d'Assise, par exemple, et il voit Dieu. Il est au ciel, il voit Dieu face à face. Mais il ne voit pas l'essence de Dieu. L'intelligence humaine, même imbibée de la lumière de gloire, ne voit pas l'essence de Dieu, la substance de Dieu. Cette conjonction de l'un, l'amour, est de la lumière dans sa substance. Même au ciel, vous ne le verrez pas. Parce que c'est totalement en dehors de la possibilité de l'intelligence spirituelle créée de Dieu, créée par Dieu. Même pour un ange ne peut pas voir la substance de Dieu, l'essence. Parce que s'il voyait l'essence, il serait éternellement Dieu. Il le serait. Donc, il y a quelque chose. Et donc il y a une quatrième connaissance, une quatrième vision, une quatrième dans Jésus. C'est qu'il est le Verbe. Alors il voit l'ultime, le principe, et ce mouvement de l'essence même de Dieu, de la Trinité et l'unité. On le voit dans la lumière glorieuse, on le voit dans le ciel, ça, mais pas jusqu'à la substance. Vous me saisissez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que Jésus, donc, il voit simultanément avec 4 lumières différentes tout. Je viens de vous dire les 4 là à la suite des autres, hein, d'accord. La science acquise, la science infuse, la science d'union, et puis la science, la connaissance substantielle. Sa personne de Verbe. Ah. Et les 4 se rejoignent en lui spontanément dans le fait qu'il est l'épousé ancré de Dieu, la vie intérieure toute donnée dans la lumière, la virginale, une virginité parfaite, une virginité absolue. Et c'est ça. C'est à cause de ça que Dieu a créé des femmes. C'est ça. C'est ça. cause de ça, quoi. Parce que donc que vous prenez du côté de l'un, que vous prenez du côté de la lumière, la vision extraordinaire, limpide de Jésus, du Verbe de Dieu. Vous rejoignez les deux, et vous allez au-delà de l'unité des deux, de l'un et puis de la lumière. Vous conjoignez la lumière dans l'un et l'un dans la lumière. Vous allez au-delà de l'unité des deux, ça va, vous suivez? Vous enfoncez le profondément là, délicieusement, merveilleusement, vous disparaissez, vous allez voir votre générosité, votre effervescence du désir. Vous n'y pensez plus. Et à un moment donné, tu vous prends. Et effectivement, Dieu vous prend parce que Dieu se saisit lui-même dans l'amour et il se concentre, si je puis dire, et ça donne la sagesse. Bon, depuis un ou deux mois, si vous suivez bien les lectures qu'on a là, dans la Bible, qu'on a dans l'office du temps présent, qu'on a dans l'office de matine, la nuit, l'office de la nuit, mais même aussi les premières lectures qu'on avait en février, c'était tout le temps la sagesse. La sagesse. Hein? Vous avez remarqué? Non, c'est parti de la sagesse. Et même, il y avait le passage dans les épîtres de la sagesse. Qu'est-ce que ça s'appelait, la sagesse? Bizarre, cette histoire de sagesse. Hein? C'est pas dans le catège. La sagesse. La sagesse dans le catège, ça veut dire qu'il faut être sage, hein, faut pas faire de bêtises. C'est ça, la sagesse. Hein. La sagesse créatrice. La sagesse créatrice. La sagesse créatrice, elle est attribuée au Verbe. Quand il y a cet arrêt, Dieu se concentre. Et dans la manifestation du Verbe, parce qu'il y a l'amour, il y a une concentration. Et il faut que cet amour se manifeste dans la lumière. Alors ça donne la sagesse. Et c'est pour ça qu'elle est attribuée au Verbe de Dieu, la sagesse. C'est le principe. Elle devient comme la présence du principe. Et elle devient sagesse créatrice. Alors cette sagesse créatrice est féminine, si vous voulez, finalement, si vous avez bien compris, elle est féminine par hypostase. Elle est messianique, c'est le Saint des Saints. Donc quand on adore, on plonge nos deux mains dans le Saint des Saints. La sagesse créatrice. Et là, on assiste à, par l'adoration, l'union, la communion, si possible, la lumière surnaturelle de la foi, on assiste à la découverte intérieure du Verbe de Dieu dans cette sagesse créatrice, par la foi, on comprend tout de suite que tout va émaner dans l'existence à partir de lui, à partir de cette sagesse créatrice. Une espèce de commotion, d'arrêt. Mais il faut bien qu'il y ait un au-delà de la lumière et de l'amour dans leur communion avec l'un, et dans l'au-delà même de ces trois. Dans l'au-delà des trois. Ça va faire la sagesse créatrice. La sagesse créatrice, c'est le Verbe de Dieu qui illumine, il manifeste le principe partout. Il va créer à partir de là. Et ça fait, du coup, une onction. Et l'onction, elle vient du fait qu'il y a une concentration du mouvement éternel d'amour de Dieu. Dans la sagesse créatrice, alors, dès que vous allez avoir cette émanation de génération responsable qui est et qui fait la substance de la création, d'accord? Mais de le dire, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est à travers la Bible, la révélation. Puisque ça nous est dit, c'est pas pour qu'on puisse le dire, c'est pas pour qu'on puisse l'entendre, c'est pas pour qu'on puisse le comprendre, c'est même pas pour qu'on puisse le contempler, c'est pour que on puisse être saisi. Dieu nous prend. tout le mouvement éternel d'amour dans la lumière, dans l'au-delà de l'âme de Dieu, fait cette concentration de mouvement éternel d'amour dans une petite goutte de sang. C'est concentré, cette petite goutte de sang, donc c'est nous quand on est entièrement présent dans la sagesse créatrice de Dieu, cette petite goutte de sang, c'est nous, c'est lui, c'est le principe de tout. Et nous sommes dans, dans cette quatrième hypostase, si je puis dire, avant la création du monde. On dit toujours, Dieu nous a vus de toute éternité. Avant la création du monde, Dieu m'a vu. Et ça veut dire, bien, oui, c'est ça que ça veut dire, c'est parce que je suis présent dans la sagesse créatrice de Dieu. Alors je dois me laisser prendre. Là où je suis cette petite goutte de sang. C'est le gratis de Dieu, cette petite goutte de sang. Quand je prends le calice de l'Eucharistie, c'est la transsubstantiation du sang que je reçois. C'est le sang transsubstantiel. Bien sûr, c'est le sang répandu de Jésus à la flagellation. Bien sûr. Mais c'est un petit peu pour ça que, bien sûr, il a la connaissance acquise et il rit avec nous. Et je lui dis, ah, bien sûr, mais il a aussi la science infuse, il a aussi la science de vision, il a aussi la science substantielle de l'incréé, apostase de Dieu. Mais c'est pareil pour le sang. Donc le sang, bien sûr, c'est le sang de Jésus que nous buvons. La transsubstantiation du sang versé de Jésus. On est d'accord. Mais c'est pas ça seulement. Nous ne sommes tout de même pas que des habitants de la terre. C'est le sang transsubstantiel, Jésus. Le sang transsubstantiel, c'est aussi la goutte de sang qui émane du Verbe de Dieu à travers la blessure du cœur de l'agneau, lequel agneau est glorifié, et donc au-delà des gloires. C'est aussi la transsubstantiation, la substance même du sang glorifié de Jésus dans la résurrection. C'est aussi, ça correspond à la science infuse, et puis c'est aussi donc la goutte de sang qui émane de la personne et de la blessure du cœur. Vous me suivez ça? C'est pas la même chose. Mais... Et puis vous avez enfin la sagesse, le sang, qui est avant la création du monde, qui est au-delà de l'émanation de l'agneau dans le Père. Alpha et l'oméga se rejoignent. Cette goutte de sang aussi, qui est féminine par hypostase. Ah, parce que le sang versé de Jésus est masculin. C'est pour ça qu'on prend le sang, et forcément spontané, puisque c'est la transsubstantiation. Que je ressens en communion. Quand on dit c'est le sang de Jésus qui m'a sauvé, le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus de Nazareth, le Verbe éternel de Dieu qui a pris chair, agneau de Dieu. Au-delà de son union hypostatique, il y a sa vision substantielle de Dieu, qui est féminine par hypostase et qui rejoint la sagesse créatrice de Dieu d'avant la création du monde, qui est l'en deçà et le fondement de son union hypostatique dans la création. Donc il y a un enveloppant. Et de lire saint Thomas d'Aquin, ça, quand même, ça permet de respirer un peu. Non? C'est plus sympa, saint Thomas d'Aquin, la petite cuisine, je sais pas quoi. Très gentil. Les autres sont très gentils, si vous voulez. Ils sont gentils, mais saint Thomas d'Aquin, c'est mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux, saint Thomas d'Aquin. Mais c'est pas parce que c'est Saint Thomas d'Aquin, c'est parce que c'est le Concile de Chalcédoine, c'est ça la doctrine johannique, la doctrine de Jean Yohanan Ben Zebeda. Une femme, il faut qu'elle puisse accepter ce qu'elle est. Une femme est pure ou bien elle n'est pas. Le jour où une femme perd sa pureté, elle a perdu sa féminité. Point. C'est indiscutable. Et c'est sûr, Jésus n'a pas perdu la pureté de sa personne de verbe. La foi aussi, elle est pure, substantiellement, notre foi. Et la lumière, c'est naturelle de la foi. On voit bien qu'elle purifie tous les espaces, tous les temps, tous les lieux. Et toutes les profondeurs de Dieu, toutes nos visions des plus grandes profondeurs de Dieu sont rendues immaculées. Instantanément et universellement, dans un espace sans limite de pureté et d'immaculation, dès que nous rentrons dans la lumière, c'est naturel de la foi. La foi est forcément pure. Ah. C'est quand même beau ça, l'Immaculée Conception. Hein? L'ange Gabriel dit, vous êtes béni. Entre toutes les femmes, dans toutes les femmes, in molia repose, dans l'intérieur de toute féminité, il y a le Verbe, et le Verbe illumine l'humanité tout entière, et cette illumination, c'est-à-dire cet enracinement, ou dans des profondeurs vers l'ultime de mon nom, voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus profond. Dans l'enveloppement de la création tout entière. C'est pour ça qu'il y a une femme. C'est pour ça qu'il y a les femmes. Les femmes sont comme des gardiennes de cet enveloppement-là. Et la femme, finalement, il faudrait regarder les... Ce serait pas mal de faire ça, une espèce de mystique. De la femme. Et puis, mystique de l'homme. Parce que l'homme sans la femme, il ne peut pas être ce qu'il est. C'est ce que dit Saint Hildegarde. Et réciproquement. Mais réciproquement, quand elle dit « et réciproquement », quand elle dit « et réciproquement », ça vient qu'après. Parce que c'est toujours pareil, la réciprocité. Ça commence par la sagesse créatrice, vous voyez. Ça se boucle dans la spensalité, l'acte pur, la spensalité. Ancré, l'ultime du Verbe. Je suis très sensible à ça parce que mon ange gardien s'appelle Ultime Verbi. Alors, mon ange gardien, il m'a dit bon, son nom c'est Ultime. Je dis, voilà, tout le temps, tous les jours, je me dis Ultime du Verbe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Le Verbe dans l'ultime de la personne du Verbe. Ultime. C'est chouette, vous savez. Résumé. Quand je ne peux pas comprendre, puisque ça relève de la... Quand je ne peux pas le comprendre, ça c'est pas dans Saint Thomas. Donc, il faut que je me laisse prendre. Et puis, ah. Ah oui. Il y a... Il y a un don de Dieu quand même. Quand il nous aime pour nous prendre et puis... pour nous donner ce qu'il est. Alors donc, On sait que c'est très très fort, évidemment. Cette relation que nous avons avec l'ange. Parce que l'ange, lui, n'a pas l'effervescence du désir. L'ange a l'amplitude sans limite de l'esprit pur, de l'esprit parfaitement substantiel. La vie spirituelle substantielle, sans aucune trace d'intériorité de l'ange. Pas de trace d'intériorité dans l'ange. Il n'y a pas cette vie intérieure qui se reprend tout le temps elle-même. Non, non, je n'ai pas comme ça. Non, c'est une lumière. Bonjour monsieur, je ne l'ai pas vu.
Il n'y a rien dessus.
Il n'y a rien dessus. Bon, il n'y a rien dessus, donc ça ne sert à rien. Il fallait le dire. J'aurais amené un appareil. On m'a offert récemment un appareil. Enfin, récemment, oui, parce que c'était la... Attendez, c'était pour... Ah oui, c'était pour mon anniversaire. Donc. Ah ouais, donc c'était quand? C'était en janvier, récemment. Alors, ça a servi une fois. On a essayé de le faire marcher. Voilà, c'est très bien. Alors après, je crois que ça va, tu vas mettre sur une clé USB, ça y est, c'est parti. C'est très très chic. Très moderne, très, très bien. On peut faire plein de trucs avec, on peut faire couper, tout. Moi je suis bon, j'ai pas le temps. Comme personne n'a le temps, c'est resté dans l'armoire. Voilà, bon, c'est des petits cadeaux, c'est bien. Ce serait bien quand même. Oh père, ce serait bien quand même qu'on puisse réentendre ce que. Mais alors là, franchement, on n'a même pas eu le temps de noter. Hein. On est tellement. Ça fait Marc, le mari de Frédéric, comme ça. On était tellement comme ça. Ça fait sa mimique, quand même. Ouais. Alors, on a quand même fait un enregistrement. On a fait une session. On a fait une session enregistrée. C'est parce que ça donne, j'ai pas regardé, j'ai pas écouté. Mais bon, je suis un peu effrayé quand j'écoute sur internet là, mes audios. Je me dis, mon Dieu, quand je les ai écoutés, ça, ils doivent être complètement. Oh, moi, je supporterai pas, c'est pas. Je trouve ça un peu. Bon, je me rends pas compte hein, que.
On va arrêter. Ça, c'est pas intéressant.
C'est pas intéressant. Il y a des relations de la personne, de la deuxième personne de la très sainte Trinité. Parce que la deuxième personne de la très sainte Trinité, elle manifeste Dieu. Dieu est manifesté à lui-même. S'il n'y avait pas trois personnes à la très sainte Trinité, Dieu ne pourrait pas se manifester à lui-même. Dieu serait lumière, Dieu serait amour, Dieu serait vie, Dieu serait tout ce que vous voulez. D'ailleurs, sa vie, ce serait sa lumière et sa vie, ce serait son amour. Et tout ça, ça Dieu serait son éternité, sa simplicité. Mais forcément, s'il est substantiellement amour et substantiellement lumière, comment se verrait-il lui-même sans un retour sur lui-même, mais un retour sur lui-même, il serait substantiel, donc automatiquement on revient à la très sainte Trinité. Ah, je sais pas, moi je pense, mais je sais que c'est pas, je sais qu'il paraît que c'est pas bien de le penser, mais ceux qui pensent que ma très sainte Trinité, franchement, dans l'unité, c'est impossible autrement. Ou alors, c'est parce qu'on n'a pas compris que Dieu était lumière et que Dieu était amour et que tu étais substantiellement l'un et l'autre dans l'unité, de l'au-delà de l'unité, de la lumière et de l'amour. Et que ça, c'était sa vie et que ça, c'est sa substance. Donc si vous rejoignez ça, les quatre, c'est absolument évident. Donc vie, lumière, amour et un et unité et l'un. Vous avez les quatre, ça c'est forcé, hein. Sinon Dieu n'existe pas. Alors, quand vous mettez les quatre ensemble, parce que c'est forcément les quatre ensemble, ils ne sont pas séparés, les quatre. C'est ces quatre qui font Dieu. Dieu, c'est... Alors attends. Alors Dieu se... Alors forcément, voilà. Donc Dieu se voit, Dieu voit tout, Dieu voit Dieu. Dieu... Mais alors c'est génial cette histoire de que Dieu... Elle est lumière. Dieu. Dieu est mort.
Il y a un décès dans le village, ils ont ramené la dame là, qui est décédée. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre pour le village. Le père qui est parti pour une retraite. Père Maléraque, ils attendent l'évêque dimanche aussi, donc ils sont avec les catéchumènes, tout ça. Il n'y a pas de prêtre pour enterrer cette dame samedi à 15h.
Et alors, et pourquoi ah ben,
ce sont... Je lui ai dit, écoutez, nous, là-haut, on fait une retraite de carême, il y a un prêtre qui est là, je lui ai demandé. Il n'y a pas de prêtre pour entrer les gens.
Ah oui, mais ça, pour oui. Ça, il faut...
Oui, je sais bien, je lui ai dit, de toute façon, c'est un prêtre qui n'est pas du diocèse, donc...
Ah non, mais...
Personne
ne
faut... veut venir, quoi, c'est un peu
ça. Ah, bah oui, c'est triste.
C'est parti pareil, hein.
Ils ne sont pas là, ils sont pas là.
Si, on dira la messe, et on dira la messe pour cette personne, très bien.
Elle s'appelle Marie.
Marie.
Ça va aller.
La messe pour cette personne. Une bonne.
Oui.
Une sainte femme.
Elle allait avoir 100 ans là-dedans.
Oh, c'est beau ça, c'est génial.
C'est
ça existe, les bûcherons.
Ah non. Alors bon, très bien, tout ça pour dire que on pourrait faire toutes ces sessions sur cette perte de nous-mêmes dans l'unité de dans ce qui dépasse, dans ce qui fait qui va au-delà de l'unité, de l'au-delà de la rencontre de la lumière et de l'amour en Dieu. Il y a la lumière et l'amour. Mais cette lumière et cet amour ne sont pas séparées, elles sont clairement distinctes, quoi. Mais elles ne sont pas séparées. Et donc, c'est une espèce de confusion entre les deux, qui n'est pas une fusion, mais qui est une communion, c'est plus qu'une communion, c'est une substance, qui fait l'essence de Dieu, qui fait qu'on est obligé, si on s'enfonce dans la disparition de la lumière, dans l'amour, une substance de Dieu dans sa lumière, aller au-delà de là, qui fait cette substance même de Dieu. Alors à ce moment-là, on voit qu'il y a forcément une commotion. Cette commotion, elle n'est pas féminine. Vous voyez ? Ça, oui. La commotion, vous voyez bien que cette commotion, c'est typique du principe du Père. Cette commotion fait émaner une nouvelle lumière Et par concentration, commotion, forcément, c'est une espèce de concentration de tout l'amour lumineux et éternel, substantiel de Dieu qui se concentre pour une émanation substantielle de Dieu. Dans cette concentration, ce moment éternel d'amour, de lumière, par là, qui fait que tout se concentre dans une petite, petite manière de parler, mais on est obligé de dire comme ça, petite goutte de sang, petite goutte de quelque chose de tout concentré, très 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 simple, très minuscule, qui fait la sagesse créatrice. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, dans la sagesse créatrice, puisqu'on a circulé pendant 40 jours avec ces textes-là, ce qui est extraordinaire dans la sagesse créatrice, c'est qu'elle est forcément, au titre du principe, comme une émanation, comme une manifestation. Et c'est pour ça qu'elle appartient au Verbe. Elle est attribuée au Verbe. Dans la doctrine de Satana, elle est attribuée au Verbe. Dans la Bible aussi, elle est attribuée au Verbe. Dans la tradition de Moïse aussi, elle est attribuée au Verbe. Dans le prologue de Saint Jean aussi, le Verbe est dans le principe. Le Verbe est Dieu et rien de ce qui est dans l'existence ne se trouve dans l'existence sans que le Verbe ne fait apparaître à l'existence. Le Verbe illumine toute existence à l'instant où il vient à l'existence. C'est le prologue de Saint Jean. Mais ce qu'il y a de chouette, ce qu'il y a de très divin, disons, de très humain aussi, c'est de savoir que le verbe est l'épouse, c'est la sponsalité à l'état pur, à l'état profond, à l'état donné dans la lumière, que le verbe soit épouse, ça c'est quelque chose de c'est une révélation extraordinaire. C'est une lumière prodigieuse sur la création, sur la sagesse créatrice, sur ce qui est intime à l'intérieur de Dieu. La création est une manifestation de Dieu. Vous prenez par exemple Adam. Et en prenant le livre de la Genèse. Bon, très bien. Alors Adam, hop, bon, d'accord, c'est beau, hein. La vie, la science infuse qu'il a, la science divine qu'il a, la science acquise aussi. Voilà, il a autorité sur toutes choses, et il les voit dans leur substance, dans leur épanouissement, dans leur vocation, dans leur alpha, leur oméga, tout ça. Et, bon, ben, c'est bien gentil, mais le secret n'a pas encore donné son émanation. Donc il faut qu'il rentre dans la torpeur, hein, qu'il s'abandonne en Dieu. Que Dieu le prenne. Qu'il ne voit plus rien, puisqu'il ne fait plus rien. Il est dans la torpeur, il est dans l'espèce de coma, quoi. Où Dieu le prend. Et à ce moment-là, le Verbe se manifeste. Et se manifestant, c'est le Verbe dans son oméga qui se manifeste. Ça sort de son côté. C'est la plénitude finale du Verbe de Dieu. Dans sa sagesse créatrice, c'est l'alpha. Et l'oméga, c'est le Verbe dans l'ultime. Bon, et regardez, voilà, vous avez... vous êtes habitué déjà à l'union hypostatique de Jésus. Ça, déjà, pour ça, pour vous, c'est facile. Pas pour tout le monde, mais pour vous, je suis sûr que union hypostatique, pas de problème. Union hypostatique. Voilà, très bien. Union hypostatique. Union hypostatique. Jésus. On se rend à lui. Il y a l'union hypostatique. Dieu éternel. Dans éternel. Dieu éternel et vie éternelle dans l'unité des deux. C'est l'union hypostatique. Vie éternelle, c'est la source de vie éternelle dans la grâce capitale, dans la grâce d'union, dans l'union hypostatique de Jésus. Bon, et cette source de, donc l'union entre la Dieu éternel et puis le Verbe, et puis vie éternelle, parce que la vie éternelle, elle va être vie éternelle en Dieu, puis vie éternelle communiquée. Donc, c'est l'union entre les deux, Dieu éternel et vie éternelle, qui fait l'union hypostatique. Si vous regardez bien, la sagesse créatrice a déjà cette présence entre le Dieu éternel de sa vie intérieure de lumière et d'amour éternel, qui est le Verbe de Dieu, et puis la vie éternelle, puisque, et dans l'unité des deux, puisque il est en train de, c'est le principe de l'émanation de la création tout entière. Donc l'union hypostatique de Jésus, pas de Jésus, l'union hypostatique, elle est présente dans la sagesse créatrice. Et qu'est-ce qui porte ? C'est la personne. Donc on voit bien que la sagesse créatrice est féminine par hypostase. Ça, c'est pas compliqué, ça. Bien sûr que après la création étant engendrée, alors oui. La grâce messianique de cette union hypostatique va émaner une huile extraordinaire de présence messianique. Dieu va être présent dans sa création, dans le monde angélique de la lumière sans limite de leur vision de toutes choses, et aussi dans toutes les images ressemblances de cette sagesse créatrice dans ce qui va faire la vosiforme, la lumière de toute existence vivante, de toute existence naturelle, de toute existence temporelle, etc. Et ça, c'est là que vient ce torrent de douceur, d'humilité, d'effacement pour l'humilité, de douceur pour ce qui est de la spontanéité, mais les deux ensemble, à travers la présence créatrice, alors il va y avoir toute la grâce messianique qui fait le Christ. Le Christ, c'est la grâce messianique, c'est une espèce de caresse intérieure à tout ce qui existe. Une caresse participée, elle n'est ni masculine ni féminine, la grâce messianique. C'est une similitude. Masculine et féminine. Mais dès que cette sagesse messianique va toucher la foi, forcément elle va s'y embraser en direction de l'incarnation. Et la direction de l'incarnation va faire que cette sagesse créatrice, cette union hypostatique, va du côté du temps que nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons, et bien assumer la nature humaine de Jésus, qui est le signe du principe, qui est la présence du principe, qui est la présence de toutes les sources de vie éternelle à l'intérieur de Dieu, et le sacrement du Père. C'est pour ça que donc Jésus, effectivement, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas une femme. Jésus, sauf erreur, c'est pas une femme. Voilà. Mais n'empêche qu'une fois que toute l'âme, toute la grâce, toute la sainteté messianique de Jésus sort de lui, toute sa vie intérieure sort de lui, toute son intelligence humaine de fils de l'homme et de fils de Dieu sort de lui. Une fois que tout son cœur divin d'amour et de lumière divine participée à l'état pur et parfait et plénier sort de lui, il n'y a plus rien de tout ça. Dans la matière vivante de l'un de son corps, et l'un de son corps, c'est l'un de la substance de Dieu dans l'émanation du Verbe. Alors voilà, là. Là, on ne sait pas quoi dire. Parce que du coup, ce qui va sortir de vivant de ce corps dépouillé, mort, cette matière même pas vivante, quoi. Qui, elle, ne va être vivante que de cette petite goutte de sang qui est la sagesse créatrice du Verbe de Dieu. Et donc, le sang va sortir à ce moment-là. Cette goutte de sang-là. Puis après, vous savez, grâce à la transverbération et grâce à l'Eucharistie, parce que la transverbération en Marie va faire d'elle une source de toute la transsubstantiation de la Jérusalem spirituelle, de la Jérusalem glorieuse, de la Jérusalem éternelle à partir de sa foi, va faire émaner la transsubstantiation du sang jusqu'à l'ultime, jusqu'à l'au-delà de la résurrection. Voilà, évidemment, dans la résurrection, l'union hypostatique de Jésus qui sur la croix est assurée, bon, est reprise dans la gloire de la résurrection. Là, l'union hypostatique de Jésus n'est plus indésirée. Le reste, il y a quelque chose de, cette extraordinaire ouverture du Verbe de Dieu à la sagesse créatrice et de la sagesse créatrice au sang et du sang, voyez, à la gloire. Et les quatre ensemble. Cette espèce d'extraordinaire de flux et reflux qui passe par cette ouverture est glorifiée. Et elle fait l'au-delà de la résurrection. Elle fait même pas l'enveloppant, elle fait l'au-delà de la résurrection. C'est vraiment l'au-delà de la résurrection. Vous voyez ça? Moi, je ne veux pas être compliqué avec vous. Mais il y a ceux qui sont dans la résurrection, ceux qui sont dans la résurrection, et bon, ils sont évidemment complètement aspiré par l'au-delà de la résurrection. Et pourtant, la résurrection, c'est extraordinaire, la résurrection, puisque vous avez tout. Vous avez, moi je parle de Joseph, moi je parle de la Sainte Vierge, qui sont ressuscités avec leur corps. Hein. Donc, bon, et puis nous, quand on y sera, bon, eh ben, je parle pas des saints qui n'y sont qu'avec leur âme, toujours pas leur corps. Bien sûr, alors, évidemment, ils s'aspirent au-delà de leur résurrection actuelle, ça c'est normal, ça tout le monde le comprend. Bon, mais ceux qui sont entièrement ressuscités, d'abord ils aspirent bien sûr à trouver à l'intérieur d'eux et à travers toute résurrection l'unité de la gloire de la résurrection de toutes choses dans le Christ, ça c'est sûr. Donc même pour Marie, Joseph et Jésus, il y a un au-delà, il y a quelque chose dans la résurrection qui n'est pas accompli. Ça c'est sûr, mais je ne parle pas de ça. Moi, ce dont je parle, c'est que, à supposer même que tout soit accompli, ce qui se fera forcément un jour, il y a dans la gloire du ciel, puisque le ciel est créé, puisque c'est le lieu au-delà du cosmos, et puis au-delà du temps, au-delà de notre monde, bien au-delà du temps, bien au-delà du monde cosmique dans lequel on est, dans l'anastase de la résurrection, dans le ciel de la résurrection, il y a cette ouverture fantastique qui fait le flux et le reflux dans la vertu du cœur du lien hypostatique des cieux de Jésus. Et très au-delà de la transverbération universelle, cette ouverture qui fait qu'on peut, de l'intérieur de la résurrection, pénétrer dans la substance même par laquelle cette ouverture nous permet de passer. Vous voyez ça? C'est ça, l'agneau, Dieu. Ça, c'est clair pour vous, hein, le mystère de Marie. Hein. Tout clair pour nous, le mystère de la Vierge Marie, c'est sûr. Alors voilà, et bien ça y est, c'est au-delà. Dans cet au-delà, mais cet au-delà, on rejoint forcément ce qui est en deçà. Et c'est pour ça qu'on comprend que la sagesse créatrice, qui est à l'origine, avant la création du monde, c'est forcément la sagesse de la croix. Forcément. La sagesse originelle d'avant la création du monde, c'est la sagesse de la croix. Forcément. Si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Hein, vous me dites tout de suite. Vous dites, j'ai vraiment rien compris à votre truc. Parce que moi, je ne vais pas continuer si vous dites, non, je n'ai pas pigé. Là,
un truc moi, j'ai que pas
je... Ah, c'est bien. Ça, je sais pas, c'est le truc. C'est forcément la sagesse de la croix. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux dit, mais moi je ne connais qu'une seule chose, c'est la sagesse de la croix. C'est Jésus crucifié. C'est Jésus, c'est la sagesse de la croix. Vous prenez, les saints, Saint Louis-Marie Guénon-L'Enfant, par exemple, Mystère de Marie, voilà. Le secret de Marie. C'est beau le secret de Marie. Le secret de Marie. Vous avez tous, peut-être pas tous lu, le secret de Marie, mais c'est magnifique le secret de Marie. Voilà, c'est pour dépasser l'effervescence du désir de Marie. Parce que, mais alors, il, à chaque fois qu'il faisait des retraites, lui, c'était secret de Marie, tac, tac, et puis 10 minutes secret de Marie, 10 minutes la sagesse de la croix. Toujours. Toujours. C'est pour ça que quand vous lisez les petits livrets de Saint-Louis-Marie Guénon-L'Enfant, vous avez la sagesse de la croix, puis vous avez. Bon. Je vous dis, on ne peut pas le faire, ça ne s'enregistre pas ces choses-là. Et on ne peut pas les enregistrer, c'est impossible. Donc c'est pour ça que ça nous est tellement fort. Il y a le petit livret, le secret de Marie, puis il y a le livret, la sagesse de la croix. Mais lui, c'était tout le temps ensemble, vous comprenez ? Ça va ensemble, c'est l'un à l'autre, de l'autre à l'un, tout le temps. Pourquoi la sagesse originelle, c'est la sagesse de la croix ? Le Père a voulu que son Fils exprime tout, et ça ne pouvait être que la volonté éternelle d'amour du Père, que ce soit la sagesse de la croix, sinon il n'y a pas de création. C'est pas à cause de ça que Jésus a été écartelé sur une croix en bois, parce que la sagesse de la croix, c'est beaucoup plus que l'écartèlement de Jésus sur la croix, c'est aussi l'écartèlement de Jésus sur la croix. C'est l'union hypostatique déchirée de Jésus. Vous comprenez bien, donc. Là, on va le dire autrement. Quand on prend le catéchisme, enfin la doctrine sur la béatitude, le traité de saint Thomas d'Aquin sur la béatitude. C'est très beau, c'est magnifique. Voilà, quand on est au ciel, voilà, on est. Voilà, je m'appelle. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Joseph. Ah. Bon. Ah, très bien. Moi et toi ? Ah, moi, je m'appelle Jésus. Ah. Et d'où viens-tu ? Ben, tu es mon fils ? Ben oui, je suis ton fils. Ah. Et toi, tu es mon père, je sais bien. Et tu m'attends depuis longtemps ? Oui, depuis 1290 jours. Oh. Et tu viens d'être crucifié, alors ? Ah, tu es mort maintenant, comme moi, on est morts tous les deux ? Ben oui. Mais, t'as pas l'air d'être si mort que ça ? Ben non. Ben toi non plus, ben, c'est vrai. Mais ben voilà, on va... Mais moi, j'ai toujours communié à ta mort, hein, toute ma vie, c'est pour ça que je suis mort. Mais je sais bien, papa, que tu étais mort à cause de ça. C'est pour ça. Je viens t'embrasser puisque tu m'as embrassé. Tu as même précédé ma mort en me l'embrassant. Et t'en es mort. Et c'est ça qui fait ta vie. Depuis 1290 jours, alors je t'embrasse. Et l'union hypostatique de Jésus dans l'âme, humaine de Jésus, venu embrasser son papa. Et comme dit saint Bernard, le baiser du Christ dans l'âme séparée de Jésus, c'est le baiser du Verbe de Dieu et de son union hypostatique. Et alors, le baiser, vous savez, il y a une aspiration quand vous embrassez quelqu'un. Regardez. Ça. Hein? n'avais pas pensé à ça. Hein. Ben, et du coup, l'âme transverberait de Joseph depuis 1290 jours s'est trouvée donc aspirée par l'union d'amour du Verbe incarné, de son union hypostatique. Aussitôt, Dieu le Père à travers Saint-Joseph, Dieu le Verbe, Dieu le Fils, dans l'âme de Jésus, toute bénie, toute glorifiée, de son conjoint, et du coup, Dieu le Saint-Esprit a pu supervenir dans l'au-delà de l'unité des deux. Ça va ? Supervenu du Saint-Esprit. Du coup, aux vibrations du Père. Et du coup, Marie assiste à ça. Elle ne le voit pas. Marie est au pied de la croix. Vous me suivez ? Elle ne le voit pas, ça. Saint-Joseph le voit, Jésus le voit bien. Ah, il voit très bien tous les deux. Mais elle est au pied de la croix, elle ne voit rien de tout ça. Mais elle sait. Elle le sait. Alors, dans la nuit, à Coiset, descendant, elle pénètre. Elle le sait, elle y pénètre. Elle se vient s'y perdre, s'y engloutir dans cette unité des deux. Et du coup, elle est saisie dans la même supervenue, dans la même abomination. Et du coup, le Père peut faire voir éternellement dans l'éternité de son Verbe et sa sagesse créatrice. La foi de Marie. Et du coup, elle peut faire naître. Il peut faire naître en elle une nouvelle conception de l'épouse incréée de Dieu à travers ça. Et du coup, il y a une incarnation de cette ouverture gigantesque qui fait la transverbération de Marie dans la chair. Et cette transverbération est tellement saisie par la sagesse de la croix d'origine, d'avant la création du monde, qu'elle est forcément universelle, et qu'elle établit Marie comme tenue de demeurer, comme co-rédemptrice et créatrice de cette victimation éternelle d'amour dans tous les temps, dans tous les lieux, et même dans les temps de la glorification dans laquelle se trouve l'âme de Jésus et de Joseph à cet instant. Parce qu'elle n'est pas dans son âme, dans la glorification. C'est comme ça qu'elle fait l'unité eucharistique de l'union apostatique déchirée de Jésus, dans tous les temps, et aussi dans les espaces de la gloire, de la vision béatifique, dans lesquels Jésus et Joseph se trouvent, tous les deux ensemble, pour engendrer dans l'Esprit Saint les espaces de la lumière de gloire créée. Ça va ? C'est comme ça que Marie est la mère de l'Eucharistie, la mère du sacerdoce, la mère de la transsubstantiation. Oui, vous êtes d'accord, je prends la chose d'une manière différente. Alors, et elle-même, quand. C'est pour ça qu'elle est obligée dans la dormition. Il y a un arrêt, que. Et donc il va falloir qu'elle soit saisie par Dieu et qu'il y ait quelque chose à partir de là, à partir d'elle, qui soit créé de manière nouvelle et qu'on la ressuscite dans la chair, quand elle est prise dans la création de la Jérusalem glorieuse. C'est forcément ça qui va être l'enveloppant de toute la Jérusalem céleste, cette ouverture gigantesque. Alors c'est pour ça qu'on dit dans saint Thomas d'Aquin que quand on est la vision béatifique, c'est magnifique d'être dans la vision béatifique, tu ne peux pas avoir plus, c'est strictement impossible d'avoir plus que la vision béatifique. Et pourtant, il y a quelque chose quelque part de la vision béatifique qui fait que la vision béatifique fait que tu c'est que tu vois Dieu face à face. Mais si tu vois Dieu face à face, ben, tu es forcément la conjonction des deux processions de la lumière et de l'amour éternel à l'intérieur de Dieu, dans l'au-delà de l'unité des deux, pour faire l'émanation donc de l'au-delà de l'unité de notre Sainte Trinité, de la Trinité dans l'unité. Donc quand il y a l'un, c'est quand même quelque chose de très 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 puissant. Et ça fait que, du coup, dans la vision béatifique, au ciel, on est dans la vision béatifique à partir du mystère de la résurrection, ça va. Et en même temps, ouvert à ce qui est substantiel dans les personnes divines, dans cette même gloire qui est avant la résurrection, avant la création et avant la sagesse créatrice de Dieu, à l'intérieur de Dieu lui-même, avant qu'il n'ait rien créé. Donc il y a donc une gloire à l'intérieur du Verbe et une gloire à l'extérieur du Verbe. Mais quand on dit une gloire extra-verbum à l'extérieur du Verbe et une gloire intra-verbum à l'intérieur du Verbe, ça veut dire que j'ai une gloire à l'intérieur de la substance même de l'épousé, d'avant la création du monde, et j'ai une gloire à l'intérieur de son union hypostatique, glorifiant tout dans le ciel de la résurrection. J'ai les deux. Ça veut dire que, vous voyez, en même temps, il y a une gloire, c'est-à-dire un amour lumineux, formidable, créateur, une créativité continuelle, splendide, extraordinaire, qui vient de la présence de Marie, de la présence de Joseph, de la présence des anges, de la présence de toutes les résurrections, de toutes les gloires du ciel. Et en même temps, une gloire qui est dans l'intérieur de Dieu, indépendamment des béatitudes, des fulgurantes émotions surnaturelles et éternelles, il faut bien dire aussi, glorieuses du ciel de la résurrection. Donc vous voyez, il y a bien une gloire intra-verbum, une gloire extra-verbum. C'est la foi qui nous dit ça, qui nous l'enseigne. De toute façon, c'est évident. Mais le flux et le reflux de l'un à l'autre, par où il passe, par l'ultime du Verbe. Forcément. Donc, pourquoi? C'est parce qu'il y a cette ouverture, Jésus Christ, qu'on contemple dans le conscient petit, dans l'union apostatique déchirée de Jésus. Mais l'union apostatique de Jésus, habituellement, on la perçoit, nous, parce qu'on contemple Jésus sur la croix. On rentre en lui. Dit, ah, ça c'est là, il y a à ce moment-là une union hypostatique déchirée. Mais on n'a pas l'habitude de regarder l'union hypostatique de Jésus déchirée dans ce qu'elle devient, dans ce qu'elle est aujourd'hui, dans la gloire de la résurrection. Cette union hypostatique déchirée, elle est glorieuse. Et elle fait passer la gloire intra-verbum à la gloire extra-verbum et réciproquement, dans un flux-reflux continuel, de l'intérieur, de ce qui est intérieur aux personnes divines, à l'intérieur de ce qui est intérieur à toutes les personnes entièrement imbibé, glorifié, envahi par les intériorités divines. Donc il y a bien dans cette ouverture fantastique, glorieuse, qui permet ce flux et ce reflux, justement, le rideau du temple s'est déchiré en deux, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc il y a bien un au-delà de toutes les béatitudes possibles de la résurrection et du ciel de la résurrection. Vous voyez ça? Ce qui serait impossible si l'union hypostatique de Jésus n'avait pas été déchirée. Ce qui serait impossible si la sagesse originelle n'était pas une sagesse créatrice. Si ce n'était pas la sagesse créatrice d'origine d'avant la création du monde, ce n'était pas la sagesse du Verbe. La volonté du Père, c'est que la sagesse soit la sagesse de la croix. C'est là qu'on voit que c'est nécessaire que la sagesse soit la sagesse de la croix, avant la création du monde. Tu ne peux pas comprendre les choses, et c'est pour ça que les épîtres de saint Paul disent, mais voilà, c'est la sagesse de la croix. Elle est folie pour le monde, et scandale pour les incroyants. sagesse. Ça veut dire quoi? Si tu veux bien, quand si tu aperçois, parce que dans la personne, dans le mystère du Christ, l'au-delà du mystère du Christ, qui saisit l'union hypostatique dans cet au-delà, par derrière, si tu veux, rejoint la personne du Christ dans l'en-deçà, qui est par devant, dans la sagesse créatrice de son union hypostatique. Et les deux, ça, ils sont les deux, ces deux-là, dans l'unité des deux, ils appartiennent à l'hypostase du Verbe. Donc, ces deux-là appartiennent à l'épouse. Elle est féminine par hypostase, forcément. La sagesse créatrice de Dieu. De la nécessité de faire des retraites entre femmes. Et que des femmes. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, on n'arrivera pas à rien. Alors, encore une femme qui va prêcher une retraite pour les femmes. Ça, c'est pas demain la veille, parce que, justement, le père aussi existe. C'est grâce à l'époux qu'il y a l'épousé. Ça, c'est sûr. Donc, il faut quand même qu'il y ait une présence réelle de l'époux. L'époux incréé, c'est le père. C'est la première personne. Il faut qu'il y ait une présence réelle. Il faut qu'il y ait Jésus. Il faut que Jésus prêtre éternel. Ça oui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, quand on célèbre la messe, il y a Jésus prêtre éternel. Et puis vous avez la victime éternelle d'amour. Et Dieu ne font qu'un. C'est ça le sacerdoce victimal éternel d'amour selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, tout le temps, pendant des siècles, on a fait comme ça, on a beaucoup insisté, ce qui est normal, je trouve ça très bien, et beaucoup insisté sur la lumière, sur la vie contemplative, sur l'amour, la charité pour. Ces demeures de l'amour. Bon, et puis, jamais sur l'unité. Sur l'un. Jamais, pourquoi jamais? Ça a été, mais à un moment donné, depuis, comme vous dites, le 5-5-5, en fait le 8-5-5, le 8 mai 2005, il y a eu quand même le Shikutsim, mais ce même, la rupture, 8 mars. Ah non, vous voyez, c'est pas 5-5-5, 8-3-5. Il y a eu la rupture de l'unité. Cette rupture de l'unité est inscrite, hein, il faut que la culture s'accomplisse, donc elle commence à faire sa fissure là en mars, très bien 2005, et puis cette fissure va se confirmer, et puis se consommer, si je puis dire. Hein. C'est bon. Et quand elle sera tout à fait consommée ouvertement, alors à ce moment-là, c'est sûr. Là, ça touche quoi? Ça touche la présence de la sagesse créatrice de Dieu. De la sagesse crucifiée de Jésus. Et de la liberté de l'un, de tous les hommes sans exception. Et c'est pour ça que, bon, là, il faut aller dans la vie contemplative, dans la vie d'amour, et dans l'au-delà de l'ouverture. créature gigantesque qui s'est opérée dans la co-rédemption du monde. C'est-à-dire que cette co-rédemption du monde, elle est présente dans le ciel de la résurrection, la Jérusalem glorieuse. Elle est présente dans la substance du fruit des sacrements. Elle est présente. Et il faut aller dans l'au-delà de l'unité de ces deux présences du ciel à la terre, parce que le ciel n'est pas l'ultime de Dieu et de la béatitude. Et la lumière de la foi n'est pas l'ultime de la lumière, sans l'au-delà de l'unité de la Jérusalem spirituelle et de la Jérusalem glorieuse. Et donc ce flux et ce reflux de l'un à l'autre dans l'indivisible de l'unité du Verbe de Dieu dans les deux hypostases de la Jérusalem glorieuse et de la Jérusalem spirituelle est devenu nécessaire pour briser l'opacité du méchourement. C'était pas du tout nécessaire avant. Alors comme Dieu fait tout avec nombre et mesure, c'est pour ça, on va faire, c'est pour ça qu'il faut. C'est pas une initiation, hein. C'est pas une initiation, l'initiation à l'un, oui, ça ferait bizarre, quoi. On va faire une retraite sur l'un. Vous avez fait quoi? Ah, nous, on a fait une retraite, une petite session sur l'un. Tu vois, alors, je fais la grimace de Marc à ce moment-là, c'est. Ça, c'est extraordinaire. Vous voulez couver... Moi, j'ai pris une précaution, j'ai pris une couverture en partie. C'est sûr. Prenez ce qu'il faut, hein, parce que vous savez, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Oui, c'est la porte ouverte. Hein. Ça, c'est oui, parce que là, je ne sais pas du tout.
Excuse-moi,
je vais faire un pas de deux. Ah oui, alors comment est-ce qu'on se laisse prendre? Et c'est pour ça donc il faut beaucoup prier pour que dans l'église, dans les pas seulement dans les paroisses, mais dans ce qu'on rencontre, le père Taki, le père Toki, tout ça. Père Tronquet, tout ça, bon, tout ce que vous voulez, tous les pères que vous voyez, tous les autres et les enfants et tout ça, et à chaque fois qu'on les voit, faut déposer en eux le germe du monde nouveau, hein, faut déposer en eux le germe de l'un, c'est-à-dire l'au-delà de l'unité de l'amour dans le règne du Sacré-Cœur, ce flux, ce reflux continuel de leur corps originel à leur corps spirituel venu d'en haut, hein, dans le miracle des trois éléments, tout le temps. Et pour qu'on puisse en être, pour pas que ce soit une imagination, voyez, de notre part. C'est ça. Pour pas que ce soit un truc de mystico-dingo, quoi. Parce que je peux très bien l'imaginer, le truc, oui, j'imagine très bien le flux et reflux, tout le temps. Un père qui fait sa consécration, il te regarde faire, il dit, mais, à la fin de la messe, il va te voir, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant la consécration? Ben, j'ai rayonné, j'ai mis le cœur, j'ai mis le flux, reflux, le miracle des trois éléments, j'ai mis le germe de l'un à l'intérieur de vous, surtout pas encore des fréquences mystico-dingo du monde nouveau. Mais qu'est-ce qui vous a appris de ce pareil? Il faut faire comme Marc. Hein. C'est ça. Il dit, mais attendez. Si vous continuez comme ça, je vais vous inviter aux ateliers qu'on organise avec Monseigneur Fontaine. Merci pour les bonbons. Hein. Enfin, heureusement qu'il y a du chocolat pour nous enlever la dépression. Donc, Et oui, alors, donc, pour être sûr que ce soit spirituel, il faut passer au-delà de la cinquième demeure de l'union transformante. Si on n'est pas, si on n'a pas lâché prise de manière à ce que on puisse être vraiment pris par Dieu, et que c'est lui qui nous prend dans la cinquième demeure, il faut vraiment que notre centre de gravité, de prière, d'abandon, d'enfance, de transparence, de pureté, de virginité, dans l'ultime du Verbe, on soit saisi par le Père, première personne de la Très Sainte Trinité, dans ce qui est tout à l'intérieur, à ce qui est intérieur, à l'intérieur de sa lumière de Père, de première personne. Et ça, à ce moment-là, oui, c'est vrai, notre corps originel dans l'un, repris dans la sagesse crucifiée, c'est-à-dire celle de l'épouse, en alpha et en oméga, enveloppe le mystère de la Jérusalem glorieuse, le mystère de la Jérusalem de la création, la Jérusalem transformante et la Jérusalem glorifiée. Tout ça s'est enfermé dans l'alpha et l'oméga des deux grandes, de l'unique ouverture. Voilà les deux lèvres du baiser du Christ Saint-Joseph. La sagesse créatrice ouverte, c'est la sagesse de la croix avant la création du monde. Et puis la sagesse a créé. Les deux sont la même ouverture. Et quand il y a une embrassade à ce moment-là, on est pris par le Père au-delà. On est saisi par Dieu le Père. Bon, c'est bien de le dire, mais c'est pas la même chose que d'être pris en fait. C'est pas parce que vous le dites que ça se fait. La cinquième demeure, attention. C'est pas. Mais une fois que vous êtes dans le centre de gravité, effectivement, de la cinquième demeure de l'union transformante, et ça, c'est génial. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose, une création nouvelle qui se fait, d'accord ? C'est Dieu qui crée un monde nouveau dans votre âme, dans votre corps originel, et dans votre et dans l'accomplissement du royaume entier de Dieu en vous, dans le corps spirituel qui se met en harmonie avec votre corps originel. Recréé dans la vie surnaturelle, dans la main du Père, d'accord ? À ce moment-là, ça devient votre centre de gravité. Bon, si ça devient votre centre de gravité, si ça devient notre centre de gravité, à ce moment-là, ça y est, vous faites partie du corps mystique de l'Église. Ça y est, je suis catho. Ça y est. Avant, je suis protestant. Après, les protestants, c'est très bien, hein, c'est très bien, il faut bien commencer par quelque chose. On est très content des protestants. Moi, les protestants, je suis admiratif des protestants. Oui. Les gens qui sont protestants pendant plus de 50 ans de suite, t'en compte. Moi, j'en connais. Hein. Incroyable. Et même quelquefois, je perçois quelque chose. Même après leur mort, quelques-uns restent protestants après leur mort. Ça. Il me semble que c'est vrai ce que je vous dis là. Si je prie pour certaines personnes, ils restent protestants même après leur mort. Si mes rêves ne sont pas arrivés. Hein. Il faut les inviter à la transubstantiation. Hein. Bon, je reviens. Si tu es catholique, parce que il y a quelque chose dans ton, dans il y a quelque chose dans ta vie surnaturelle, dans ta vie chrétienne, hein, qui fait que Dieu se sert de toi. Que le Père peut passer à travers toi pour atteindre tout le monde dans un seul acte. C'est ça la cinquième demeure. Cinquième demeure, Marie fait un acte de foi, tu vois, par exemple. C'est génial. Dans la contemplation du mystère de Marie, il aide beaucoup à ça. C'est vrai. Pour comprendre. Pas pour que ça se fasse, mais pour comprendre. Mais une fois que tu as compris, ben tu peux le dire, Seigneur, c'est ça que je veux. Il faut que tu t'abandonnes, tu attends que le Seigneur le fasse. Très bien, voilà, c'est ça. Voilà le processus, c'est ça. Mais dans la vie théologale. Bon, mais parce que si tu, bon, on y reviendra, parce qu'on est là, quand même, on est là pendant 3 jours. Vous allez m'entendre pendant 3 jours. Rendez-vous. 3 jours sans arrêt, comme ça, quoi. On va tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps, la crème, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêtez avec la religion, sans fils de la religion. Rentre dans la vie divine, dans la révélation, dans la transformation, dans la volonté éternelle d'amour du Père. La religion. Bien sûr, c'est bien qu'il y ait des précisions sur la manière de prier, tout ce que vous aimez. Bon. Comme si c'était dans les manières de. C'est pas la manière, c'est la... Dieu est substantiellement Dieu, et c'est tout. Donc il faut remettre la carte pour tout le temps, être rappelé que c'est Dieu qui compte, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui crée, qui transforme, c'est Dieu qui nous prend. Là, on a la crème de. C'est tout au-delà de notre effervescence dans le désir. C'est beaucoup plus profond. Il faut être beaucoup plus féminin que ça. La femme inversée, c'est quoi? C'est au lieu d'être complètement manifestée dans le don, du coup je me regarde plus moi-même, c'est je voudrais qu'on me regarde moi-même. Ça, c'est le contraire, c'est l'inversion de la féminité, c'est ça, c'est regardez-moi. C'est attirer les regards, ça, c'est l'inversion, ça. C'est. Comme le mystère de la mort saisit une petite adolescente, c'est ça. Hein. Elle se télékinésise de manière à ce que. On voit très bien. Alors que normalement, la pureté, la profondeur de la de ce qui fait le don lorsqu'il se manifeste en se donnant jusqu'à l'ultime, c'est une lumière d'une profondeur virginale qui est telle que. Dieu le voit, ça, de l'intérieur, la création aussi. L'univers qui est autour de nous voit la petite fille. Moi, j'imagine très bien, alors que je ne suis pas une femme, j'imagine très bien une petite fille. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? Je l'imagine quelquefois, je dis oui, j'imagine très bien, parce que j'ai vécu pendant toute ma vie, beaucoup de ma vie, au milieu de 5 filles. C'était pas facile, hein. C'était pas facile. Mes 5 sœurs, là. Bon. Heureusement, j'avais un frère jumeau pour porter le truc. Hein. Mais quand même, on voit quand même qu'il y a quelque chose de beau dans une petite fille. En même temps, j'ai vu les ravages, bien sûr, comme tout le monde. J'ai vu les ravages, c'est mes petites sœurs. Mes grandes sœurs, j'ai vu. Elles sont abîmées, c'est évident. Mais quand même, j'ai vu des petites filles. J'ai vu ces petites filles. Quand elles sont... Quand ces petites jeunes filles, là, donné, hein, lorsque l'émotion divine les saisit, transforme et transfigure, qu'elles sont complètement des petites soeurs, des petites filles, des petites jeunes filles, des petites... On voit bien que ce qui se passe à l'intérieur, quoi. C'est au milieu de l'univers, quoi. L'univers voit ça. Et elles se rendent bien compte qu'elles illuminent l'univers entier. C'est des moments comme ça dans une petite fille. On le voit ça. Non, ça vous est jamais arrivé, vous avez oublié peut-être.
Ça arrive aussi chez les petits garçons.
Non.
C'est pas pareil.
Jamais. Non, parce que, comme dit Marc, nous, on n'est pas des gonzesses. Pas des gonzesses. J'aime bien, madame, tu vois, ça, piment, mais ça. Trop fort. Pour ça, c'est pas la peine. Vous pouvez le comprendre imaginativement, mais ça ne servira à rien. Vous pouvez imaginer une espèce de petit garçon. Il se trouve, quand il se trouve pleinement petit garçon, c'est vrai, il y a une. Ça fait comme une apparition, je sais pas comment ça s'appelle. Ça fait comme une commotion, c'est une commotion qui fait qu'il est déjà adulte. Et déjà, il est accompli, quoi. Vous voyez, cette espèce d'accomplissement. Il est accompli, tout. Donc, il. Une espèce de magnanimité qui fait qu'il reçoit tout. C'est difficile à expliquer, hein. Mais le petit garçon, il a 6 ans, 7 ans. Et voilà. Il est avec Jésus, il est avec Dieu, il fait oraison, par exemple. Il se voit dans son corps spirituel accompli, si je puis dire. En gros, c'est ça, quoi. Et à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la petite fille, quoi. C'est vrai, c'est autre chose. C'est l'accueil du temps. Le cœur d'accueil, oui. Mais dans l'accomplissement de l'accueil du temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est responsable de la réciprocité du temps. Quelque part. Hein? Petit garçon, c'est différent. Et à un moment, il découvre ça. Ça se fait jamais sans que ce soit en présence physique de l'univers tout entier, hein. Dans l'un, la petite fille, comme dans l'autre cas, le petit garçon, le petit jeune homme, c'est vrai. Dans la sponsalité, il y a forcément la signification sponsale de la solitude. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça que Jean-Paul II a décrit, hein, à sa manière aussi. Quand on fait une petite session sur l'un, on comprend que c'est pas une session sur l'un d'ailleurs, mais quand on fait pas une session, vous commencez, vous me connaissez, vous savez ce qu'on fait quand. Voilà, quand on se trouve comme ça, à vouloir chercher, à se laisser prendre par Dieu, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut nous donner, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire. Bien sûr, on peut prendre un schéma. On peut prendre une ligne de conduite, une ligne de force. On peut prendre. c'est pas notre style de préparer un truc. Moi j'ai vu tous mes amis qui sont prêts, qui préparent leur session, ils préparent leur retraite, alors ils préparent leur sermon. Ah oui, ils écrivent. C'est horrible. Vous vous rendez compte? C'est affreux. Moi, je peux pas faire ça. J'en suis désolé pour vous, je peux pas. Je peux pas faire ça. Bon, ça fait moins sérieux, d'accord, mais... J'ai essayé de le faire une fois ou l'autre, mais bon. Non, parce que c'est pour ça que ça peut pas être. Ça n'est jamais la même chose, mais il faut tout le temps, rentrer dans ce charisme, qui est un don du Saint-Esprit, qui ne sanctifie pas, mais qui aide à notre conversion. Parmi tous les charismes, je peux avoir le charisme de ressusciter les morts. Je peux avoir le charisme d'arracher Satan, de faire fuir toutes les puissances qui imprègnent, qui attaquent, qui pénètrent, qui troublent une communauté, qui troublent un quelqu'un. Je peux avoir un charisme de guérison intérieure pour quelqu'un. Prier pour sa guérison, prier pour sa conversion. Je peux avoir plein de charismes. Je peux avoir un charisme prophétique. Je peux avoir un charisme de prophète. Je peux avoir plein de charismes pour... On dit bien que les gens... Celui-là, il a un charisme pour réconforter les gens. Formidable. Hein, il a celui-là, celle-là, un charisme merveilleux pour donner la paix. Bon. Mais parmi tous les charismes, un charisme, c'est pas parce que vous avez un charisme que vous êtes un saint, attention. Un charisme, c'est pour l'édification du prochain. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir plein de charismes, tous les charismes même, et puis, sans être sanctifiés. Parce que le charisme ne vous sanctifie pas. C'est Dieu qui vous sanctifie. C'est pas le charisme, c'est la grâce sanctifiée. Pas la grâce charismatique. Et le met le plus haut. Pas la grâce actuelle, transitoire. Parce que la grâce transitoire, c'est merveilleux. Dieu rebondit sur vous, et va sur l'autre, et se dit, mais je vais recevoir le baptême. Très bien, t'as un charisme pour provoquer le désir du baptême chez les gens. Donc on ne crache pas sur les charismes, on ne méprise pas les charismes, c'est très bien les charismes. Mais c'est pas du tout l'essentiel. Pour ça je vous ai parlé de Jésus qui joue avec nous, il a la science acquise, puis en même temps il voit ce que, quand, ce que tu fais, tout ce que ça a comme conséquence partout, dans chaque être humain, dans la nature, dans la résurrection, future, il voit tout ça, science acquise, ça c'est très très bien, mais tout ça c'est très bien, mais c'est zéro à côté de sa lumière glorieuse, sa vision béatifique dans son lumière hypostatique, laquelle n'est rien du tout non plus par rapport à ça, connaît le fait qu'il voit l'essence, il est, il voit ce qu'il est dans sa substance et son essence. Même Marie ne peut pas voir l'essence de Dieu. Tandis que le Verbe incarné, oui, parce qu'il est le Verbe. Et ça, c'est l'essentiel. Donc la lumière de gloire, la résurrection, la lumière infuse et la lumière acquise, très bien. mais c'est pas l'essentiel. D'accord. Donc le charisme, c'est bien. On va pas dire. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut remuer tout le temps, tout le temps, tout le temps la crème, pour revenir, revenir se laisser prendre par Dieu en sa propre personne, en sa propre substance. C'est pour ça qu'on faut remuer, remuer, remuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, 3 jours pour faire ça, c'est bien, je trouve. C'est très bien. Et pour ça, il faut un charisme. Et ce charisme, d'après l'énoncé des charismes dans l'Épître aux Corinthiens, c'est le... on appelle ça, c'est le, celui qui est supérieur, disons, à tous les autres. C'est le sermo sapientiae. Saint Thomas d'Aquin dit que dans tous les charismes qui sont comme ça, énumérés par Saint Paul dans le Nouveau Testament, c'est celui qui est supérieur à tous les autres. Attention, ce n'est pas la charité. La charité, ce n'est pas un charisme. La charité, c'est une vertu surnaturelle et théologale. Hein. Donc, mais parmi tous les charismes, c'est-à-dire ces choses qui passent par vous et qui ne vous sanctifient pas, celui qui l'exerce, ce charisme, n'est pas sanctifié parce qu'il exerce ce charisme, mais il peut effectivement aider d'autres à se plonger dans la sanctification, ce qui est déjà très bien. Bon, alors, eh ben, c'est un mot, mais l'Antichrist, il aura ce charisme, il se sanctifiera pas. Il aura les autres charismes, la Vierge de la Sainte, à dire, ressuscitera les morts, hein, au nom de Jésus, le Christ. Sermo sapientiae, c'est ce fait que on remue justement ensemble, on remue la doctrine, la lumière infaillible, la doctrine divine, sa naturelle venue d'en haut. Voilà, dans le corps mystique de l'Église, à travers une petite cellule vivante, fraternelle, toute simple. Alors du coup, il y a cette doctrine qui s'écoule, elle vient d'en haut, et elle vient de la sagesse, de la croix. Et elle s'exprime elle-même dans ce qu'elle est, à travers nous. On l'a fait quand on a fait l'Apocalypse, on a fait... Il y a quelque chose... C'est quelque chose... C'est là-dessus, par quelqu'un comme le Père Marido, qui était fondateur des Petits Cris, il avait un sermon sapientiae vraiment impressionnant. Moi, je l'ai écouté peut-être 20 000 fois, une heure. C'était vraiment étonnant. Quoi. Il avait un sermon sapientiae. Saint Thomas d'Aquin avait aussi, paraît-il. Parce que ça, c'est pas écrit, ça. La somme de Saint Thomas d'Aquin, c'est pas sermon sapientiae. C'est un travail qu'il avait. Mais dans ses sermons, il y avait un sermon sapientiae. Dans la somme Saint Thomas, il dit, il n'y a pas d'immaculée conception, mais dans ses sermons, sur l'immaculée conception, il courait tout le temps. C'est ce que les gens disent, hein, les témoins. On voit bien. C'est extraordinaire, ça, de savoir. Pourquoi ? Parce que l'Immaculée Conception, à l'époque, c'était pas encore dogmatique. Donc, il n'en fait pas un travail théologique, c'est normal. Bon, c'est la théologie scientifique. Mais quand il fait un sermon, attends, je m'excuse. Hein. Bien sûr qu'il y a l'Immaculée Conception. Bien sûr qu'il y a la sagesse créatrice. Et la sagesse de la croix. Dans la foi. Et que la foi, c'est ce qui atteint la sagesse créatrice dans sa substance et dans son ultime. Donc forcément, il y a l'Immaculée Conception. Pour saint Thomas d'Aquin, quand il fait un sermon sapientiae, que l'Esprit Saint passe par Jésus crucifié, forcément, il y a l'Immaculée Conception. C'est évident. Ça coule de source dans un sermon sapientiae. Hein? Bon, sermon sapientiae, c'est du latin. Alors, sermon sapientiae, ça veut dire parole de sagesse. Donc, quand la sagesse crucifiée, originelle, et puis celle qui est ultime au-delà du monde de la résurrection se rejoignent ensemble pour parler, à travers les deux lèvres du prédicateur ou n'importe qui peut, n'importe qui peut avoir le sermo sapientiae, même un âne pourrait avoir le sermo sapientiae, puisque l'ânesse de Balaam, bon, c'est un sermo sapientiae, parole de science, l'ânesse de Balaam, bon. Pourquoi pas un sermon sapientiae? Peut-être qu'un jour, on verra au temps de l'Antichrist ou l'humilier, qu'il y a des ânes qui vont avoir un cerveau sapientiel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien élever des ânes, pour préparer l'humiliation d'Antichrist. Ça, j'avais commencé avant. La véritable humiliation, la sanctification de l'âme, du corps, et la glorification du Père à ça, c'est l'essentiel, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ça. Voilà ce que le Père, là où le Père attend son verbe, là où l'époux attend son épouse, c'est là. C'est pas d'être capable de communiquer. C'est là. C'est dans là. Et l'au-delà de là. Et pour ça, il faut être pris vraiment par Dieu. Pris par le Père. Cinquième demeure. Cinquième demeure. Pour Claire Marie, il n'y a pas de problème, elle a déjà fait les sessions sur 5 heures. Donc, maintenant, quand je serai en panne, elle pourra faire la suite. Elle en perd son mouchoir. Oui. Cinquième demeure. Bon, c'est. Voilà. Donc, c'est important que de savoir que le cinquième saut de l'Apocalypse appelle la cinquième demeure. Que la brisure de le fait d'avoir mis la fissure de l'union hypostatique de Jésus crucifié jusque dans la sagesse créatrice du corps originel de tous les êtres humains, que les démons en arrivent à cet étape-là, hein, voilà, fait que pour nous, il n'y a pas de doute possible, nous sommes à l'heure pour l'Église de la nécessité de la cinquième demeure, cinquième saut d'Apocalypse. Ça, je crois que ça, c'est pas, on n'a pas besoin d'une démonstration. Je suppose que c'est le sens de la foi. Instinctivement, on voit que c'est évident. C'est évident. C'est évident, mais c'est une évidence tellement grande que les gens le voient. Vous pourrez faire des retraites, des exercices de Saint-Ignace, de Loyola. Vous pourrez faire des retraites de d'initiation à Saint Thomas d'Aquin, des retraites de. De lumière, de charité, d'amour, des retraites de joanniques avec les petits gris, ça. Il y a quelque chose qui fait qu'on est très content d'avoir fait ses retraites. Et en même temps, on revient dans le monde, on voit que c'est pas ça qui va permettre à l'Église de traverser l'épreuve qui est sur nous. On voit bien ça. Voilà, donc on. On a l'habitude avec nous, avec Domanova, tout ça, ça fait. On est des vieux routiers de cette histoire-là, c'est pas nouveau pour nous, ça. Les vieux pèlerins, on commence à être les vieux de la vieille par rapport à ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on entend dire ça y est, les grands événements, l'avertissement, l'Apocalypse est pour dans le mois prochain, quelques mois. Donc on commence à être habitué. Si autant, la première fois que Marc a entendu ça de mon avis, il avait. Qu'est-ce qu'il dit? Du coup, il est parti au Pérou. À l'autre bout du monde, puisqu'il a parlé de la fin du monde. Ouais. C'est comme quand j'ai quitté Domanova, je devais aller dans le diocèse de Nice, là, à la frontière avec l'Italie, au sommet, hein, au fin fond des montagnes là-bas, des Alpes. Un petit sanctuaire, enfin un grand sanctuaire qui s'appelait Notre-Dame de la fin du monde. Finesse. Notre-Dame, Finestere, c'est en latin qui dit Notre-Dame. Notre-Dame. Domina, c'est ça. Notre Domina Finestere. La fin de la terre. Puis au dernier moment, le dernier jour, j'ai quitté ici, j'ai pris ma voiture pour aller là-bas, coup de téléphone dans la voiture, c'est l'évêque qui me dit non, vous ne pouvez plus venir, c'est fini, vous êtes interdit de venir. Ça faisait 5 mois que c'était d'accord, tout. Hein. Donc, on va vers la fin du monde, on y va, on y court, bam, on ne peut pas aller toucher, on ne peut pas mettre son pied là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord qu'on soit dans la 5e demeure. C'est ça. Il faut s'enfoncer dans le puits. Le puits profond. C'est pour ça que Sarkozy, il s'est encoulé, du coup, il est allé faire un pèlerinage au puits.
On a pensé à vous.
Parce que la Samaritaine a dit le puits est profond. C'est terrible. C'est curieux d'ailleurs, c'est une indication. Parce que le diable porte pierre, hein, il nous indique où se trouve le centre. Notre-Dame de France, la Vierge. Il y a un lien entre le Nouvel Israël et la France. Et puis Marie. Mais Marie, celle qui fut. Nouvelle. La nouvelle Marie. La création nouvelle en Marie. L'après-dormition, l'après-assomption de Marie. Qui a un lien avec la France. Le nouvel Israël, c'est la France. Rien ne se fera dans l'univers sans que ça ne se passe par cette relation, cette unité. Métamorphose de l'au-delà de l'unité de Marie et de la France. Le nouvel Israël, le Saint des Saints, du royaume accompli, passe par la France. Et oui.
L'image, c'est l'ange d'Israël, j'arrive dans les forces. C'est beau.
Hein?
Dimanche, l'ange du jour, c'est Israël, l'ange d'Israël. Quelque chose. Oui.
Ah. C'est merveilleux. Mais la France, c'est... on ne se rend pas compte. Nous, on est en France, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Je pense que... Mais oui, il y a quelque chose. La France est une terre sainte. C'est une terre sainte. Elle n'est pas consacrée à Marie. Elle est consacrée à l'Assomption de Marie. C'est Marie, Jérusalem nouvelle. Celle qui fut un jour Marie. Notre-Dame de tous les peuples, médiatrice de toutes les grâces, co-rédemptrice du monde. Et elle est la patronne, c'est-à-dire elle est l'âme, elle est la vocation, elle est la lumière vivante de la France. Et la France, lorsqu'elle va être imbibée, imprégnée de cette unité, de l'au-delà de l'unité avec elle, elle va se retrouver elle-même là, dans ce qu'elle est. La France, et dans le monde nouveau, c'est très important, la France. nouvel Israël. Le nouveau Saint des Saints, du monde nouveau, du Kadosh HaKadosh, du Bet HaMikdash, du monde entier, de tous les temps, c'est la France. Dans le cœur de Marie, il ne faut pas l'oublier, dans le cœur de Marie ouvert, et cette ouverture, justement, qui fait l'acte pur de sa responsabilité avec l'Esprit Saint dans l'au-delà. De la sagesse crucifiée, glorifiée du Verbe. Ça, c'est en France. Vous pourrez aller où vous voudrez. Ça, je vous le promets. Vous pourrez aller au Pérou, si vous voulez. Vous pourrez aller en Hollande. Vous n'entendrez jamais ça. Dans un sermon, ça bien dit, jamais. Parce que vous pouvez aller en France, vous entendrez ça. Vraiment, dans beaucoup d'endroits en France. Pas que la France est au-dessus des autres, mais que il y a ce monde nouveau, qu'il y a cette présence, cette sagesse de la croix. La sagesse de la croix dans l'Assomption de Marie, la sagesse de la croix, mais qui saisit la terre. Un corps mystique. Chaque nation a une vocation, une mission. La mission d'Israël. C'est une mission très importante parce que Dieu nous a donné la création. Le Père nous a donné, le Père et le Fils et le Saint-Esprit nous ont donné l'existence. Nos parents nous ont donné la vie, tout ce que vous voulez, mais Israël nous a donné quand même le ciel. De Marie dans la terre, le ciel tout court. C'est Israël qui nous l'a donné. Israël nous a donné Marie, Marie a fleuri, quoi. C'est la vocation d'Israël, c'est de donner Marie. Et la vocation de la France, le nouvel Israël. C'est aussi une vocation. Et c'est la France qui l'a, c'est plus Israël. Israël n'a pas disparu parce que les fils d'Abraham, même dans le sang et dans la grâce, continuent de courir sur la terre de Dieu, hein, sur notre terre. Bien sûr. Prenez Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila aussi, elle était juive, elle était du sang. Hein. Ou Saint Thomas d'Aquin, c'était des juifs de sang aussi, hein. Saint Paul, Saint Dominique, Saint François, bien sûr, tout ça c'est des juifs de sang. Hein. Donc la vocation d'Israël demeure, elle donne toujours Marie, mais la vocation de la France, Marie, elle a été au-delà de son Immaculée Conception, au-delà, plus loin dans ça. Comme corps rédemptrice, puis dans la dormition, vous rendez compte ce qui s'est passé dans la dormition. L'unité d'une humanité intégrale glorifiée dans la vision béatifique du nouvel Adam, de la nouvelle Ève, c'est ça la dormition. Et Dieu le Père a pris ça, il a fait disparaître, il a créé création glorieuse, nouvelle. Et ça, c'est la France. C'est lié à la France, vous voyez. Le don d'Israël à l'humanité et à Dieu, ça a été donné à Marie, vous voyez. Mais le don de la France au ciel et à la terre, c'est de donner l'au-delà du règne Sacré-Cœur, hein, l'Assomption de Marie. Marie, c'est lié à la foi, hein, toujours pareil. Donc quand Marie va pouvoir envahir, habiter et vivre dans la foi des chrétiens de France pour créer l'ouverture du ciel à la terre et de la terre au ciel, dans l'au-delà de l'unité des deux, ça c'est la France, ce n'est pas Israël. Et pour ça, il faut beaucoup de pureté. Beaucoup de pureté. il faut beaucoup de virginité de la chair et du cœur, il faut beaucoup de transformation jusque dans la chair, le corps. Mais, parce que l'Assomption, c'est bien le corps de l'épousé qui est saisi par le Père, par les au-delà de la sagesse de la croix glorifiée dans le Verbe de Dieu. J'ai pensé, figurez-vous, avant-hier, je me disais, tiens, il y a. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, c'est une mystico. J'aime bien. Il faut qu'il se trouve un petit peu dans le centre de la France, justement. J'aime bien, la trouve marrante, celle-là. Bon, il y en a qui sont un peu rasoirs, hein, bon. Les mystico, hein, mais celle-là est marrante. Elle est toujours en colère. Ça marrant, je trouve ça amusant. Enfin, au moins comme ça, elle reste âme parce qu'elle se dit c'est colère. Elle est en colère contre tout le monde. Bon. Et voilà. Et elle me dit, j'ai vu Jésus, il était ensanglanté, il était là ce matin, mais qu'est-ce qu'il était beau, que c'était beau. Oh, il a prolongé, mis sa main comme ça sur sa poitrine. Il était là devant moi, et puis il allait à droite, il allait. Et puis la sortie de sa poitrine à son cœur, mais son cœur, j'ai failli tomber dans le coma tellement c'était beau, oh, tout ça. Et puis, il y avait le sang, la sacoupe de sang qui était partout, il a mis ça partout, il a dit, oh, tu as peint ici, ah, tu as peint là, ah, oh, il mettait tout ça, et puis il dansait au milieu de tout ce que j'avais fait dans l'oratoire, dans la chaîne, il dansait avec son cœur là, et puis en même temps c'était beau, c'était splendide, c'était royal, c'était en même temps statique, puis en même temps c'était une danse. Oh. Et puis, voilà, et puis, il m'a regardé, il a dit, regarde là. Et c'était Marianne. Il a dit, c'était Marianne. Ah, Marianne, elle a dit, regarde là, bientôt, elle est à moi. La France, Marianne. Bientôt, elle est à moi. Sa prostitution, là, dans ces jours-ci, dans les jours qui sont là, du mois de mars, du mois de Saint-Joseph, elle va donner sa prostitution. Elle va. Et toi, il faut que tu l'arraches, sa prostitution, par la prière. Et il faut que tu prennes autorité, avec mon autorité et mon sang, sur sa prostitution, qu'elle se transforme en pureté parfaite. Et que la place vacante soit prise par Marie en elle. C'est joli, hein, je vous dis presque mot à mot ce qu'elle m'a dit. C'est un mot, ça vient de dire, oui. Même une femme, elle peut me donner ça. Je me dis, toc, 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 toc. C'est pas une sainte vie pour autant, je mets en colère. Vous croyez bien, elle n'a pas les vertus. Donc, si elle n'a pas les vertus, ça se met en colère. C'est qu'elle est encore dans la troisième demeure, quoi. Elle a beaucoup d'amour, donc troisième demeure, allez. C'est génial de voir les troisièmes. Quelqu'un qui est tout le temps dans l'ancien mot sapientier, moi j'en connais plein, il s'arrête en deuxième demeure. L'autre jour, j'étais avec un type que j'aime bien, et il prie beaucoup. C'est un laïc, hein, il travaille dans la ville et tout. Les gens viennent le voir, il tient un magasin, ta-ta-ta-ta-ta-ta, il conseille tout le monde, il réconforte tout le monde, il prie pour tout le monde, et tout, bon, j'en passe. Et il fait les oraisons de Sainte-Brigitte, tout ça, bon. Charmant, il est vraiment merveilleux, il est très bien, il est très sympathique. Alors. Il dit, mais sacré cœur de Jésus, il dit, sacré cœur de Jésus, la mort de Jésus, il dit. Alors il m'a dit, je dis l'autre jour, hein, il me dit ça il y a 4 jours. Il dit, mais je dis à Jésus, tout le temps avec moi, je te dis tout le temps, je t'aime, Jésus, je t'aime. Mais je sens pas vraiment que je t'aime comme je. Je le sens pas, quoi. Je sens pas totalement, quoi, que je t'aime. Je le dis, mais je t'aime Alors, et aussitôt, il y a une voix qui est sortie de moi, disant, c'est parce que tu m'aimes pas. Alors, il fallait voir les yeux quand il me disait ça. Il était clos sur place. C'est parce que tu m'aimes pas. Ah. Hein, la deuxième demeure, hein. Il y a beaucoup qui restent. Mais avec l'effervescence, la générosité, tout ça, la ferveur, tout ça, beaucoup d'efforts. C'est très important, la deuxième demeure. Il faut pas ne pas passer par la deuxième demeure. Il faut aller à fond dans la deuxième demeure. C'est ce qu'il fait. Mais du coup, il va être. Il sait maintenant qu'il faut crever le plafond de la deuxième demeure. Pas Dieu qui le fait. L'amour, c'est comment? Vous savez où commencer l'amour? Vous savez comment ça fait l'amour? Vous savez comment ça fait, comment ça fonctionne? Non. Parce que vous êtes des femmes de France et que la France est devenue une prostituée. C'est vrai, je ne blague pas. Hein. L'amour, quand même. Alors il dit, c'est bien. Comme ça, tu vas pouvoir passer à la troisième demeure. Il dit, je n'avais pas pensé. Oui. Il serait temps que tu y penses. Passer à la troisième demeure. Comment est-ce qu'on fait pour passer à la troisième demeure? D'abord, il faut bien sûr le demander. Il faut peut-être... s'instructionner, parce que quand même il y a la doctrine merveilleuse, divine, mariale de l'Église, de Jésus, de Saint-Thérèse, dans Jésus, tout ça, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Dans le cas de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Alors c'est je passe à Jésus, je t'aime. L'amour, c'est un feu. Il vous habite. Celui que vous aimez est tout brûlé d'amour dans vous. Et c'est cet amour consumé qui envahit tout ce qui est vous dans l'intérieur de ce qui est intérieur à vous. C'est par Jésus, je t'aime. Comme s'il y avait un espace entre celui que j'aime et toi. Une distance, même très petite, entre celui que tu aimes et toi. Il y a une... C'est dedans. J'essaie de lui expliquer ça. Je dis, mais tu vois... Quand tu vas prier, voilà, prier 6 heures par jour avec le chapelet de Saint-Michel, t'as dit, putain, ce qui est bien, c'est super, il faut faire ça, et tu vas faire aussi, essayer de faire oraison, quoi, mais quand tu fais oraison, tu fais oraison, mais quand on est oraison dans la première et deuxième demeure, on lutte contre plein de trucs, mais attends, j'arrive pas si je le fais quelquefois, c'est tellement extraordinaire ce mystère du rosaire, je sais que, puis ça me fait du bien, ça me pacifie, tout ça, mais vous voyez, c'est une espèce c'est une espèce de foi qui pénètre dans les mystères en les voyant, en les découvrant, en les savourant. etc. Mais ça reste finalement lié encore à la foi, lié elle-même brûlée par la ferveur, et puis l'admiration, la découverte. C'est la deuxième demeure. Il y a encore une petite distance, puisque je ne suis pas dedans, c'est pas ce mystère qui est dans moi et qui illumine, qui se donne à travers moi. Quand j'aime, c'est celui que j'aime qui se donne à travers moi, à mes enfants. Quand la maman aime, quand la maman aime, eh bien, tout l'amour du papa qui se manifeste aux enfants à travers elle. Sinon, elle n'aime pas. Dis-moi, mon mari, c'est un imbécile. Mon mari, c'est un imbécile. Il proteste tout le temps. Donc, moi, j'aime mes enfants. Hein? Comme ferait Marc. Tiens, c'est ce qu'il dit. Non, l'amour, donc c'est là, c'est ça l'amour. C'est quand l'amour de l'autre passe à travers toi pour atteindre ce. Alors à ce moment-là, il y a de l'amour en toi. C'est Jésus a pris toute sa place à l'intérieur de toi. Ça, c'est la troisième demeure. Hein? Au minimum. Alors, si s'il n'y a pas l'amour, c'est il y a toujours un peu d'amour, si vous voulez. Hein? Mais s'il faut quand même passer de. Il faut être un foyer de lumière, de charité et d'amour, troisième demeure. Ça, c'est la mission de Marthe Robin, vous voyez. Qu'on soit des foyers intérieurs de lumière, de charité, d'amour. Alors, c'est du coup Jésus qui. Regardez Marthe Robin. C'est l'amour de Jésus qui avait toute sa place, il n'y avait que l'amour de Jésus. Elle s'exprimait plus, c'était que l'amour de Jésus qui émanait pour le monde entier, pour le Père, pour les temps futurs, tout ça. Elle, sa voix en était toute limpide, toute claire, toute ruisselante, joyeuse, merveilleuse, etc. Parce que Jésus était libre à l'intérieur d'elle, hein, de donner tout l'amour à tous ceux qui passaient. Tout ce qui ne passait pas, tout ça, oui, c'est ça. Que Jésus va pouvoir souffrir à travers Marthe. Au ciel de la résurrection, il ne peut pas souffrir. Mais son union hypostatique déchirée a besoin de l'église spirituelle et transformante pour exprimer de manière substantielle la sagesse de la croix dans la chair. Par amour. Il n'en trouve pas beaucoup de consolateurs de ce genre hein, qui ont de l'amour pour sa victime d'amour. Ah. Ah, ça c'est un des plus grands privilèges de toute ma vie d'avoir connu, vu Marthe Robin. Ça, j'en suis sûr, ça. Je crois que je suis d'accord avec tous ceux qui disent, et ils sont extrêmement nombreux, c'est la plus grande sainte de tous les temps. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je ne parle pas de la Sainte Vierge. Mais la France a donné ça. Ouais. La France a donné Marthe Robin. La France a donné Thérèse. À donner Bernadette. La France a donné Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. La France a ouvert la terre à Saint-Michel-Archange. La France, quand même, a donné Sainte-Marguerite-Marie le Sacré-Cœur de Jésus. La France a donné le baptême des nations. La France a donné tous les missionnaires de toutes les régions du monde. La France a donné Saint Thomas d'Aquin. La France a donné François d'Assise. Il s'appelait François à cause de ça, parce qu'il était français. Immigré. En Italie, le pauvre. C'est pour ça qu'il a dû se mettre tout nu là-bas. Pour être français, tout nu. Voilà. Bon, la France a donné Saint-Dominique. Bon, d'accord, il venait d'Espagne. De Saint-Patrick. Saint-Patrick. Vous vous rendez compte, Saint-Patrick?
C'était pas
une erreur. Oui, mais il a fallu qu'on l'arrache au Pays de Galles, qu'on le mette prisonnier, esclave, parce qu'il était rempli de péchés très embêtants, il n'était pas chrétien. Mais donc après, il a réussi à s'enfuir, il s'est converti. Et une fois qu'il est converti, qu'il s'est enfui, il est allé où en France? À l'Eras. Puis il a été formé, le Patrick, parce qu'il était baptisé, son père était prêtre. Mais il n'avait jamais vécu. Donc il avait apostasié carrément. Bon, et ben quand il est revenu, il a fait ses 25 ans de formation en France, chrétienne. Et c'est de France qu'il est parti, envoyé par Grégoire de Tours.
Ah,
tous les. Quand tu prends par exemple le suaire de Turin, je trouve ça c'est impressionnant. Tu prends le suaire de Turin. Le suaire, tu as le visage de Jésus de la résurrection, toutes les plaies qui sont marquées, etc. Et la blessure du cœur. La blessure du cœur, c'est le roi de France. C'est l'effigie du roi de France, la blessure du cœur, du suaire de Turin. C'est le visage, c'est la photo. Pour aller comprendre pourquoi. Pourquoi tous ces signes pour montrer que ça converge vers la France? Vous voyez, il y a une espèce de Marianne, la prostituée, Marianne. Et moi, je me disais Marianne, Marie, tu fais la rencontre entre Marie et puis sa mère, Anne. Tu fais l'au-delà de l'unité des deux et tu as la vocation de la France. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Et oui, parce que Anne, c'est quand même quelque chose. C'est là. C'est. Et Anne, Sainte-Anne, elle a terminé en France, vous savez ça. Saint Nicodème, Marthe, Lazare, Marie-Madeleine, tout ça, tous ces grands disciples. Sicaire, l'aveugle, né, le. Ces grands disciples de Jésus, en dehors de tous ceux qui ont dû circuler partout pour évangéliser, mais ceux qui sont restés sur une terre, c'est son meilleur France, Nicodème. Je sais pas, ça c'est des petits signes, mais c'est des petits signes de rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que Jeanne d'Arc, Saint-Michel lui a bien dit, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, les deux grands martyrs de l'Église catholique. Elle lui a dit, c'est la France. Il doit mettre l'Antéchrist dehors. En commençant par les Anglais. C'est ça. Ça me plaît, ça. L'équation de l'Angleterre, c'est d'être bouté hors de France. Mais Jeanne d'Arc, c'est nous, cette histoire de Jeanne. On la brûle partout et son cœur continue à être vivant. À battre dans la cendre. Alors on le coupe en mille morceaux pour qu'il n'y ait surtout aucune trace de ce miracle. Mais enfin, il y a encore un bout qui a été. Et qui continue à battre encore aujourd'hui. Ça, je ne vous dirai pas où il est. C'est incroyable. C'est comme ça. Bon, peu importe, mais je veux dire là, l'heure est venue dans le cinquième sceau de l'Apocalypse pour que une terre nouvelle apparaisse, le nouvel Israël, hein, le nouvel Israël, cette ouverture du ciel à la terre, ce flux et ce reflux, cette union hypostatique déchirée dans la foi des croyants, dans le corps spirituel et le corps originel des croyants. Ça, c'est la vocation de la France. Et pour ça, bon, il faut aller, et c'est sûr. On ne peut pas aller plus loin que l'amour, troisième demain, mais n'empêche qu'à un moment donné, il faut peut-être laisser le Saint-Esprit nous envahir. Quatrième demeure. Peut-être le Saint-Esprit nous envahit. Que ça plus le serment. Ça bien c'est la parole de sagesse. Sagesse de la croix qui exprime tous les mystères de lumière intime, pacifique, débordant, immortel, qui sont en elle. Manière juste, adaptée à la doctrine divine du Verbe de Dieu. Dans la paternité incréée, l'aspiration de l'Esprit Saint, dans le logos de la révélation surnaturelle, divine, infaillible, de son corps mystique vivant et entier, émanant d'Immaculée Conception pour la clarification du Père. La Sermon Sapiensi, c'est très très bien, mais je vous dis, vous pouvez très bien faire du Sermon Sapiensi et puis vous nourrir de ça. Parce qu'il faut reconnaître, c'est pas désagréable. Ben, sans arriver à être plongé dans l'amour de la troisième demeure. C'est sûr, ça. L'amour du Père, l'amour du Verbe de Dieu, l'amour du Christ, l'amour de Jésus. Jésus exprime son amour. Et cette expression de l'amour de Jésus nous envahit tellement de l'intérieur, de notre intérieur, que ça fait tout notre intérieur. Ça, c'est la troisième demeure. Et cette troisième demeure, mon Dieu, que c'est beau. Ça, c'est vraiment une étape, hein. C'est vraiment une étape, il faut être vraiment purifié, hein. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix dit, voilà, et Sainte Thérèse d'Avila, disent voilà, ça c'est les demeures de la purification. Hein. Deuxième, troisième demeure, une purification, on devient virginale, pure, immaculée. Alors à ce moment-là, ça y est, dans l'unité de l'immaculée, de la pureté parfaite, eh bien oui, la troisième demeure, l'amour, hein, est libre de s'exprimer de Jésus dans nous. Pour aimer le monde, pour aimer le Père. Mais il faut quand même, du coup, que Jésus, que Dieu, que nous soyons vraiment nous-mêmes, sous le souffle du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va y avoir un recueillement. Parce que l'amour de Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'arrête pas de faire toujours la même chose. C'est de se laisser recueillir lui-même, en son amour à lui, qui est pourtant surabondant, inépuisable, divin et inconditionnel, et de se laisser recueillir dans l'aspiration passive, substantielle et incréée de l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé à l'instant de l'ouverture de l'union hypostatique de Jésus sur la croix. Hein? Et ce recueillement, c'est l'Esprit Saint qui recueille, bon, un baiser du Saint. Et c'est le propre de l'Immaculée Conception dans cette espèce de quiétude. Elle n'est pas du tout affolée, peut-être la croix. Elle est dans un océan substantiel de paix. À cause de ça, à cause de la quatrième demeure. Et c'est dans cet océan substantiel de paix, du recueillement, silencieux, pacifique, immaculé de la quatrième demeure. Et à un moment donné, le Père nous saisit, il nous prend. Il nous prend. Et c'est la cinquième demeure. Ça, ça ne s'invente pas, ça. Ça ne s'invente pas. Si on l'onction, si on parle, si on prie, si on se lève la messe, si, pendant trois jours, là, c'est pour ça, c'est pour petit à petit nous laisser apprivoiser par la cinquième demeure. L'ouverture du cinquième sort, dans la cinquième demeure, c'est là. C'est là. Et dans l'époux, je veux dire, quand je, le verbe, quand le Christ, c'est recueillir dans la quatrième demeure, dans, avec l'immaculée conception, dans l'aspiration passive, substantiellement agréée, éternelle du Saint-Esprit. Et que de là, le Père, première personne, se saisit de nous. Alors, il ne reste plus que quoi? L'amour de l'épouse. C'est normal, voyez bien, Saint-Esprit. L'amour du Christ a disparu dans l'aspiration passive du Saint-Esprit. Le Père s'en est saisi. Et du coup, il y a l'amour de l'épousé qui apparaît, le Verbe, glorifiant toutes choses. Alors à ce moment-là, vous rentrez en sponsalité avec l'union parfaite. Victime d'amour, hein. Sixième et septième demeure. C'est normal. Mais entre les deux, il y a cette saisie du Père, la paternité agréée de Dieu, ça va dans vous, en vous, à travers vous. Et dans le temps d'aujourd'hui, du Christ total, vivant et entier, en vous, dans le temps d'aujourd'hui, dans l'instant du monde d'aujourd'hui. Et du coup, vous traversez du coup avec lui tous les instants futurs de manière fulgurante, ainsi que tous les espaces. Et tous ceux qui ne le font pas et ne le feront pas avec vous. Et à ce moment-là, vous avez une odeur de là. On a eu quelque chose comme ça. Quand Dieu nous a créé, le Père nous a créé, et on a été créé dans l'amour du Père et la présence aussi. Donc il nous a donné et aujourd'hui encore, nous vivons dans cette liberté originelle du don de notre existence, dans le mouvement éternel d'amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais se nourrissant de cette présence du mouvement éternel d'amour du Père qui nous nourrit dans cette unité totale avec lui pour faire notre liberté dans l'ordre du temps. Ça, ça se nourrit de là. Là, c'est la nourriture. Là. Bon, là, on a la foi, l'espérance et la charité. On a une intelligence contemplative pour voir Dieu. C'est la plus grande dignité de l'homme, ça. On a un cœur divin pour aimer. Et on a une mémoire, une liberté dans l'ordre du temps, une innocence divine originelle. Enfin, bref, on a trois puissances de vie spirituelle, de même qu'il y a une seule, nous sommes une seule substance, une seule existence, et trois puissances de vie spirituelle, de la même manière, il y a trois personnes en Dieu et une seule nature divine. Ben, il y a trois puissances, et bien notre cœur divin, notre amour, notre capacité d'amour, notre cœur se nourrit du bien éternel d'amour de Dieu. Notre contemplation, notre plus haute dignité contemplative, se nourrit de la lumière de gloire. La vérité, verum, le Verbe. Et notre puissance de vie spirituelle qu'on appelle la memoria dei, la liberté du don, cette puissance-là se nourrit de l'un, de ce qui est tout à fait unique dans l'intériorité, unifiante, unifiée, enfin, l'émanation immédiate de la substance de Dieu, de l'essence de Dieu, en lui-même, dans les processions, dans chacune des personnes, dans la sagesse créatrice et dans tout ce qui existe, le tout en un, ça nourrit notre liberté. Vous avez trois puissances de vie spirituelle, ça c'est du catéchisme de base, si je puis dire. Voilà, vous avez l'intelligence, la volonté et la mémoire de Dieu. Vous avez trois puissances. Hein. Voilà ce qui fait qu'on est un petit peu plus que le corps mourant. Comment est-ce que l'albatros, il essaie d'atterrir. C'est ça, l'albatros qui atterrit, puis il essaie d'atterrir, et puis pam, il se trouve. Il culbute sur ses pattes, et il se retrouve la tête avec les gars. C'est pas ça, c'est l'albatros, toi, non? C'est l'albatros, c'est ça. Au-dessus de l'albatros, à cause de ça, tu vois. Parce qu'on a, l'intellect à genre, on a le cœur spirituel, la volonté divine, la volonté spirituelle d'amour, cette capacité d'amour spirituel pur, et puis on a cette liberté du don. On est créé à partir de l'un. Et l'un nous nourrit dans notre liberté. Et l'un, c'est ce qui fait l'unité de Dieu, ce qui fait l'unité de chaque personne divine, ce qui fait l'unité des trois dans l'unité de Dieu, ce qui fait l'unité de la sagesse créatrice dans l'unité des trois, dans l'un de la Sainte Trinité, et ce qui fait l'unité de chaque chose qui existe dans son unité propre avec la sagesse créatrice de Dieu et dans l'un de Dieu. Et l'au-delà, dans l'unité de ces 5-6 unifications spirituelles métaphysiques, c'est là. Là, ça nourrit ma liberté. Parce que j'ai été créé à partir de là. Et donc je me nourris de là. Si je veux être libre dans la liberté du don. Donc il faut se laisser attirer par le bien en soi, de se laisser assimiler la lumière de la vérité de Dieu dans sa substance. Et puis il faut aussi se laisser transformer en Dieu lui-même, parce que nous sommes capax dei, capacité à être transformé par cette unité vivante, lumineuse, amoureuse de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Donc on a bien trois puissances. Alors, c'est ça. La cinquième demeure, ce qui domine dans la cinquième demeure, c'est l'un. Ah, petit à petit, on va s'habituer. Et là, justement, on en a eu, on l'a palpé, si je puis dire, en nous, dans le premier instant de notre existence, dans la première, et ça a duré, on le sait bien, nous le savons bien, ça a duré pendant plusieurs mois. Cette saveur de l'un, ce goût de l'un, je sais pas, il me dirait que le soleil tombe là. On va être tard maintenant ou quoi? Donc c'est l'heure pour la messe alors. On a passé l'heure de la Sainte Synaxe. Et on attend encore peut-être les.
Il y a Guylaine et Eva qui devaient arriver pour 6h. Oéra et Maé aussi. Christiane, apparemment, devrait arriver le matin.
D'accord.
Dominique, je sais pas.
D'accord. Non, mais très bien.